Salut tout le monde, c'est Seb, j'espère que vous allez bien. Petit message avant le début de l'épisode pour vous prévenir que j'ai eu un petit souci avec ma piste. Le son, il est pas foufou pendant à peu près une vingtaine de minutes. On s'est, fort heureusement, on s'en est rendu compte assez rapidement, relatif quand même. Donc c'est réglé juste après une vingtaine de minutes. Ça repart sur un son plus qualitatif. Donc voilà, je m'en excuse. Et du coup, pour me faire pardonner, ce qui tombe bien, c'est qu'on a une petite surprise prévue. Donc restez bien jusqu'à la fin de l'épisode pour découvrir ce qu'on vous a préparé. Voilà, bon épisode à tous. Bienvenue dans le 24e épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga ? C'est le podcast qui décrypte les premiers chapitres des mangas. Je suis Seb et j'ai mon gars sûr avec moi, Val. Salut Val, comment tu vas ?
Bonjour, salut, ça va et toi Seb ?
Eh bien écoute, ça va pas mal. On est reparti pour un nouvel épisode. Après donc Beastars et donc il y a deux semaines, on a eu aussi la chance de faire un petit manga du grenier sur Baki. Maintenant, on repart sur le format classique et pour ce nouveau numéro, nous avons le plaisir de recevoir encore un nouveau profil d'invité. Je suis trop content. On a le plaisir donc de recevoir Aurélien Martinez, responsable éditorial et créateur des éditions Mao. Salut Aurélien, comment ça va ?
Salut Seb, salut Valentin, enchanté d'être là.
Donc merci en tout cas d'être présent sur l'épisode. L'idée, c'était, comme je disais avec Val en off, c'était qu'on ait aussi un profil d'invité un peu différent, puisqu'on a déjà eu community manager et donc là, l'idée, bah, c'est d'avoir un créateur d'une maison d'édition, donc la tienne, l'édition Mao. Et donc, bah, ça va être l'occasion de pouvoir un peu connaître un peu les coulisses d'une maison d'édition. Et c'est vrai que nous, on s'était croisés à Angoulême. C'était là qu'on a eu le premier contact.
C'est vrai.
Et on s'est dit, bah tiens...
Pas loin de l'arbre à Mangaio, je crois. Tout à fait.
Ouais, je crois, ouais, il y avait des gens qui... Ouais, c'était ça. Un arbre un peu sympa.
Les cerisiers en fleurs tombaient surtout sur nous. Et ensemble, nous avons dit, si on faisait un podcast. Voilà. C'était un peu moins romancé, mais c'était plus ou moins ça.
Non, c'était ça, il y avait un peu de larmes.
C'est ça, tout à fait.
Des gouttes d'eau, enfin, c'était
bon. C'est bon, on a un scénario, c'est bon, maintenant on peut l'éditer. C'est bon, allez, c'est parti.
Je veux 50% les droits. Je participais à moitié, on était deux.
Voilà. Tout à fait.
Et moi je pue, c'est ça ?
Oui, on testera la...
On s'arrangera ensemble, Seb. Voilà, ça sera ça.
Vous vous démerdez pour les royautés, moi je veux pas en être...
D'accord. Bah, si tu veux, Aurélien, on va commencer par un basique. C'est déjà c'est que tu nous présentes les éditions Mao. Déjà, peut-être pour nous parler, dire quelle est la signification de Mao, peut-être pour ceux qui ne connaîtraient pas le mot.
Alors, les éditions Mao, on s'est lancé en 2019. Étonnamment, une date qui me revient souvent, le 4 novembre 2019. Donc, peu avant le Covid, en réalité, et on s'est lancé avec mon associé à l'époque, qui était Jérémy Touzet, qui est toujours mon associé, qui est directeur commercial de Mao, et on s'est lancé un peu en se disant, on a envie de monter une maison d'édition, on se reconnaissait pas à l'époque, lui voulait monter la sienne de manga, moi je voulais faire du light novel, on s'est dit, tiens, si on fusionnait nos deux projets, et on se lancerait dans cette aventure, parce qu'on voulait quelque chose de différent. C'est-à-dire que à l'époque, moi, j'étais fan de light novel, je suis toujours, mais à l'époque, je me disais, il y a quelque chose à faire avec les light novels, il y a quelque chose, j'aime bien ce format, c'est quelque chose qui mériterait de fonctionner. Et bon, les mangas, j'aimais aussi ça, ce qui fait que ça a très vite matché avec Jérémy, et on s'est lancé là-dedans, et on s'est dit, et le but, et c'est là où on revient avec Mao, le nom Mao, au départ je cherchais un mot, et on s'est dit, tiens, ce qu'on aimerait mettre, c'est de la magie dans les livres, voilà. Et Mao, ça veut dire magie, voilà. Donc c'est Mao édition, c'est mettre de la magie dans vos livres, voilà, c'est ça la petite cash line, le petit slogan derrière.
Ok.
Et okay. On, à partir de là, on s'est un peu fixé un peu cette règle entre lui et moi, c'est que de toujours trouver des titres qui nous ont tapé dans l'œil un peu, qui nous ont donné envie de le faire et envie de nous lancer dans ça. C'est pas vraiment on fonctionne un peu, on va dire, au coup de cœur évidemment, mais on cherche des titres qui sortent un peu de l'ordinaire, de toujours la même chose, et on essaye de nous surprendre. On se surprend parfois nous-mêmes à prendre certains titres. C'est souvent assez drôle comme ça.
Bah justement, vu que tu en parles, tu parlais donc Light Novel Manga, mais c'est quelle est votre un peu votre ligne éditoriale? Qu'est-ce qui fait que c'est votre patate?
La première ligne éditoriale, la particularité de la ligne éditoriale de Mao, c'est déjà on fait du light novel. C'est déjà, je crois que c'est déjà la base de Mao Édition, c'est on fait du light novel. Il y en a pas beaucoup. On est actuellement 3-4 maisons d'édition à le faire et en vrai vraiment 3 maisons d'édition activement à être dessus, avec la nouvelle Ophelbe et nous. Donc à partir de là, c'est déjà un élément de différenciant à ce niveau-là. Donc après, après notre ligne éditoriale, je dis, ça fonctionne très, on est très porté sur le fantastique, la science-fiction, sur des romances un peu plus adultes, enfin tout ce côté, en fait notre public c'est vraiment l'ado adulte, de 14-16 ans à 25-30 ans à peu près, c'est vraiment notre cœur de cible. Ça fait des trucs très commerciaux dit comme ça, mais vraiment c'est l'idée de
non mais c'est intéressant
et de toucher, de toute façon on est nous-mêmes dedans, donc forcément et on n'a pas forcément grandi aussi en âge intellectuellement, donc on est très fan de ce genre de choses.
Aujourd'hui si on est là, je te cache pas qu'on est trois à ne pas avoir grandi, rester bloqué
paraît-il,
et on aime bien
et on accepte, et je l'accepte
oui. et on le vit bien, ça va.
Voilà.
Et donc ouais, du coup, donc là sur dans le catalogue de Mao, la part de manga light novel, c'est du quoi? C'est du 50-50? Il y a plus de light novel que de manga?
Ça dépend. Tiens, j'ai oublié de dire un truc sur la ligne éditoriale. Il y a aussi une partie importante de la ligne éditoriale qu'on fait, c'est qu'on fait de la création originale. Et ça importe aussi. On fait aussi de la création originale. Donc forcément, c'est intéressant à ce niveau-là parce que on prend des manuscrits français ou de l'étranger ou d'ailleurs et on mixte. Par exemple, on a fait Les Enfants de Gore, qui est un light novel français illustré par un japonais, enfin par un coréen qui vit au Japon, qui est Navigavi. Et tu vois, on essaye vraiment de mêler, on va dire. De faire en sorte que la création, de mêler les origines, de faire en sorte que la création originale, pour nous, elle soit au même niveau que ce qu'on peut trouver dans le commerce et qu'on voit presque plus la différence entre le pays. Et ça, quand des gens nous disent ah ouais, c'est français, là, c'est la meilleure victoire qu'on ait eue. Parce que les gens, ils s'en rendent pas compte, en fait. Voilà. Et sinon, la question que tu me posais, c'était.
la part, en fait. Entre le light novel et le manga.
Actuellement, on est à peu près à 50-50. Depuis qu'on a Maned, évidemment, il faisait que du manga, donc forcément, ça maintenant, on est plutôt autour de 25-75, mais voilà. En règle générale, on est assez équilibré dans cette partie-là.
Je te laisserai poser ta question, Val, mais vu que tu en parles, vous avez racheté Maned récemment pour justement vous renforcer. Sur le marché du manga, ça s'est fait récemment, hein, je crois que c'était l'année dernière ou cette année.
Ça s'est fait cette année, ouais. Enfin, officiellement au 1er janvier. Au 1er janvier, ils sont officiellement dans Mao Édition. Maned, pour faire un petit topo, c'est une maison d'édition qui s'est créée à peu près en même temps que nous, mais qui était spécialisée en manga chinois et notamment de manga d'arts martiaux. On se croisait en salon, en fait. Pour dire la vérité, on se croisait en salon. À force de faire des salons tous les week-ends, ou quasi tous les week-ends, on croise les mêmes éditeurs, en fait, au bout d'un moment, les mêmes groupes de jeunes éditeurs. Et au bout d'un moment, tu fais « Eh, tiens, c'est Maned, comment tu vas ?»« et tout. Eh, salut, c'est Mao, comment tu vas ?» Ça serait bien qu'on fasse des stands ensemble. Et finalement, au lieu de faire des stands, on a fusionné. Ça, c'est...
Non, mais c'est un bon move. Hein. Ça permet d'être plus fort c'est et puis de faire bah, profiter oui. à chacun du catalogue.
C'est exact.
Non, parce qu'ils ont des, ils ont des bons titres. Hein. De mémoire, je crois que c'est Martial Universe, Battle Through Even, désolé pour mon anglais, qu'on peut retrouver aussi sur... Alors nous, on consomme beaucoup avec Manga.io, mais c'est vrai que c'est des titres qu'on retrouve aussi sur la plateforme.
Tout à fait.
Ou en termes de logistique, pour vous, après, c'était plus simple aussi.
Bah, c'est aussi ça, en fait... Le milieu de l'édition, en fait, je vais rentrer un peu plus dans la côté plus précis. Le milieu de l'édition, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup d'éditeurs. Et forcément, il y a énormément de livres qui sortent chaque mois. Il implique que nos diffuseurs, distributeurs, peu importe lequel, qui sont Interforum, Hachette, etc., doivent prioriser les livres qui vont sortir. Et c'est plus facile on a plus de force en étant ensemble qu'en étant séparés. Et c'est pour ça qu'avec Manen, on s'est dit, bah tiens, on va fusionner parce que, un, on aura une communication plus forte. Deux, on pourra mutualiser, on va dire, certains coûts de fonctionnement. Je pense administratif, comptabilité, etc. et tout. Mais on aura aussi plus de force auprès des libraires et auprès de notre diffuseur parce que notre poids ne sera pas le même. Parce qu'on aura doublé notre catalogue presque. Et c'est aussi ça, en fait, qu'on s'est dit. C'est le but, c'était que le petit devienne un peu plus gros et puisse peser un peu plus dans la balance et voir ses livres un peu plus mis en place.
Ouais, bah c'est fait noyer dans la masse, c'est compliqué.
C'est ça. Tout ce qui bah, c'est ouais. quand nous et le but aussi, et donc le troisième main, c'était ou quatrième main, je sais plus. C'était également de faire en sorte que les sorties soient régulières, parce que aujourd'hui, pour une petite maison d'édition, plus les sorties sont espacées, plus la trésorerie fait des allers, des hauts et des bas, on va dire. Et du coup, on se retrouve avec parfois des mois un peu arides où tu te retrouves à avoir 0€ de chiffre d'affaires si tu sors 0 livre. Et là, pour le coup, ce n'est pas possible puisque tu vas continuer de payer tes imprimeurs, tu vas continuer de payer tes auteurs, tu vas continuer de payer tes traducteurs, tes correcteurs, tout le monde, tu vois, évidemment, ce qui est tout à fait normal. Et quand on est une petite maison de son, tu peux pas sortir des livres tous les mois. C'est plus difficile. Donc maintenant, avec Maned, en étant ensemble, bah déjà on grossit nous-mêmes chacun de notre côté. On grossissait déjà nous-mêmes chacun de notre côté. Et maintenant, ensemble, bah on peut sortir un livre par mois, deux livres par mois et exister, en fait, tout simplement en librairie.
Ouais.
Ouais, parce que le vide, c'est pas top.
C'est ça.
Quand il y a un qui sort, on a l'impression que la maison ne fait plus rien, mais non, c'est qu'elle fait avec ses moyens et à la hauteur de ses moyens. Val, tu voulais poser une question ?
Ouais, en fait, c'est pour rebondir un peu sur ce qu'on disait sur la ligne éditoriale et tout ça. Je sais pas si la question va pas être... Bon, il n'y a pas de question bête, il paraît. Mais moi, je me pose une question. En fait, j'ai du mal à imaginer comment ça se passe pour une maison d'édition quand vous allez à la chasse au titre. Comment vous remplissez votre catalogue ? Est-ce que genre il y a un marché ?
Il y a le bon chasseur, il tire, mais c'est un bon chasseur. Non, ça dépend. En fait, c'est comment dire ? Il y a plusieurs manières de procéder. La première, c'est l'éditeur, c'est l'ayant droit qui va te dire « Hey, j'ai un super catalogue, regarde-moi ça
okay. voilà.
Achète-le-moi » et tu seras en face de 15 personnes en face de toi et tu mourras. Tu pourras, ton offre, elle passera inaperçue. Voilà. Et il y a l'autre méthode qui est d'arriver vers... C'est toi qui es demandeur qui va voir l'ayant droit en disant « Je veux ce titre-là ». Celui-là, pas un autre, okay. pas celui-là.
Parce
celui-là.
Que tu l'as sourcé auparavant, en fait.
Voilà. Okay. Donc, en fait, il y a un gros travail de veille, on va dire, constante.
C'est toi qui l'as fait la veille.
C'est moi qui l'ai fait la veille. On l'a fait un peu tous, évidemment, mais essentiellement, en tant que directeur éditorial, c'est en effet mon rôle de trouver les licences, d'aller voir, etc. Et donc, ces deux méthodes sont complémentaires. Hein. Je prends l'exemple d'Angoulême. Angoulême, on oublie souvent, mais il y a un marché des droits. Et oui, le marché okay. des droits d'Angoulême, c'est une période où moi, en tant que petit éditeur, je vais avec mon éditeur, on fait « Allez, viens, on y va, on va faire la tournée des éditeurs !» Et on va dans le marché des droits, qui est un tout petit préfabriqué de 100 mètres de long, 100 mètres carrés de long, tu vois, pas plus...
Pas très loin du bon voilà. début, pour ceux qui...
Tu ne peux pas rentrer si tu n'as pas le passe pro, hein, sinon c'est... Toi, tu rentres pas, hein, y a un videur à l'entrée, hein, évidemment, mais moi, j'ai le droit de rentrer. Bon, je vous avoue, c'est pas foufou, hein. Il y a quatre livres qui se courent après, souvent par éditeur. Mais parfois, il y a notamment certains éditeurs, notamment il y a souvent Taïwan, il y a souvent la Corée, il y a souvent la Chine, il y a souvent tout ça. Très
qui sont d'ailleurs des marchés très émergents.
Tout à fait. Et c'est comme ça qu'on a pu notamment avoir des titres en manga comme Nine Leaves Man, comme Conte Merveilleux du Printemps, qui sont des one-shots, qui sont super bien, et des titres des mangas taïwanais en l'occurrence. Ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de lire. Mais en fait, eux, ils sont sur place et ils t'attendent. Et en fait, tu vas les voir, tu te dis, bon, écoutez, moi, ma ligne éditoriale, c'est à peu près ça. Je cherche un manga qui est à peu près comme ça. Et ils vont te dire, bah, regardez, voici mon catalogue. Lui, il a gagné le prix machin en Corée. Lui, il a gagné le prix machin à Taïwan. Est-ce que ça vous intéresserait? Après, tu fais un appel d'offres. Tu fais ton offre.
Ok, il y a des appels.
Là, c'est un appel. Là, en l'occurrence, souvent devant toi, t'as 5-6, t'as peut-être 2-3 éditeurs qui se positionnent dessus. Ils sont pas contre toi, ils sont chacun dans leur coin.
Oui, mais... oui. Bah, chacun fait son offre et puis c'est le marché.
Et
quoi,
l'offre, hein, se fait avec. Se fait aussi sur le plan marketing. C'est pas uniquement financière, c'est aussi le plan de communication marketing qui compte.
Oui, comment tu vas mettre en avant le produit, le livre.
Nous, généralement, on dit on va faire un trailer, on va appeler la presse, on va envoyer des kits presse, tu vois, ce genre de choses, tout ça, ça fait partie d'un...
Ça rentre dans la balance.
Voilà.
Okay. Et en tant que maison d'édition indépendante, faire du kit presse, c'est quelque chose qui... C'est simple, compliqué, parce qu'on sait que les gros cadors, ils ont l'air d'avoir un peu de budget pour ça, donc ça envoie facilement du kit presse. Moi, j'ai toujours un peu de... Je me dis que les influenceurs ou d'autres personnes qui veulent mettre en avant un titre, qui demandent un kit presse, je me dis toujours, pour une maison indépendante, c'est... Des fois, c'est peut-être... Je me dis, est-ce que c'est bien de le faire? On a envie de les aider, quoi, en fait, plutôt que de demander du gratuit. Est-ce que c'est quelque chose qui est facile à gérer?
Quand t'as pas d'argent, t'as des idées. C'est dans le sens où t'as pas d'argent, t'as pas forcément de gros budget, tu vas jouer sur tu vas réfléchir justement à tourner ton service de presse pour ton kit de presse pour qu'il soit le moins cher possible et qu'il propose des goodies simples, des autocollants, des stylos, des porte-clés, ce genre de choses, des petits trucs comme ça. Ça fait toujours plaisir. Genre pour Nine Leaves Man, on a proposé des brumes d'oreiller. On était en plein confinement à ce moment-là. Tout le monde était chez eux, etc. De quoi, pardon?
Des brumes d'oreiller.
En fait, c'était un brumisateur d'oreiller à la lavande. Et donc, du coup, en service de presse, les gens avaient évidemment le livre, évidemment le dossier de presse qui va avec, mais une petite brume d'oreiller qui permettait de mettre un peu un côté floral chez eux, alors qu'on était tous confinés en mode chez soi après pendant le Covid, donc forcément c'était sympa. Ouais. C'était les gens ont fait ah c'est super cool et tout, j'aime beaucoup. Et évidemment, on en avait fait un peu plus de ces brumes d'oreiller qu'on a ensuite distribué en salon, etc. Parce que c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que et c'est là où moi je trouve c'est mon aspect un peu, on va dire, il y en a pas que pour la presse et les influenceurs. J'essaye d'en faire un peu plus pour ensuite on les fait donner ensuite en salon. Voilà. Ouais. Pour l'achat d'un tome, okay. Tu peux avoir pendant un temps, on avait des brumes d'oreiller qu'on donnait pour l'achat du tome de Nine Leaves Man. Okay. Voilà. On en a plus maintenant, parce que c'est fini. Mais c'était sympa. Les gens étaient toujours contents.
Et c'est original comme manière de. Comme merch. On peut dire que c'est du merch?
Non, c'est pas du merch, c'est du promotionnel.
Le
merch, c'est un type de contrat précis qui est les goodies, genre t-shirts et compagnie, tu vois. C'est vraiment du produit dérivé, voilà. Quand on parle de merch, c'est vraiment du gros produit dérivé, une figurine, ce genre de choses, voilà. C'est pas la même chose. Je prends un autre exemple sur Berserk of Gluttony. On avait fait, vu que ça parle la gloutonnerie, etc., on avait acheté des petits sacs de bonbons transparents en forme de monstre. Et on mettait mis des petits bonbons dedans qu'on a refermés, qu'on a envoyés aux influenceurs. Et en gros, comme le thème est très centré sur la faim, les influenceurs pouvaient manger des bonbons. Ça nous a coûté rien, juste de la main d'œuvre, juste du temps. Les gens étaient contents. Les gens étaient contents.
Et puis ça colle bien avec Berserk of Gluttony, quoi. Pour le coup, on peut se mettre à la place du perso. Voilà. Quoi.
Et on avait même fait une petite OP après. On en avait fait plus, tu vois. On avait fait finalement, on avait beaucoup trop d'acheté, beaucoup trop de bonbons et de sachets. Du coup, on les a donnés en librairie. on a fait une tournée parisienne à ce moment-là des librairies en disant toute la journée on va faire une tournée de 5-6 librairies dans Paris et pour tout achat du tome vous partez avec vos bonbons etc. on pitchait en même temps, enfin les libraires étaient super contents. On avait fait Le Renard Doré, on avait fait plein d'autres librairies. Là, j'ai un petit trou de mémoire sur les autres librairies, mais on avait fait beaucoup.
C'est vrai que d'avoir l'éditeur qui se déplace en personne, c'est aussi un peu le charme des indépendants. Je trouve que c'est... Et quand je dis indépendant, c'est pas un gros mot. Hein. C'est vraiment, je trouve qu'aujourd'hui, il y a des indépendants dans le milieu du manga qui font du super taf. Et d'ailleurs, tu vois, ça me fait penser à un poste d'un de vos confrères, la Naban. Mm-hmm. Qui a fait un post, je sais pas si tu l'as vu passer, qui disait comment aider justement une maison indépendante. Je trouve que c'était bien tourné déjà, parce que c'était assez bienveillant. Mais on a possibilité sur votre site internet de commander directement chez vous.
Tout à fait.
Ok, d'accord. Et du coup, c'est ce qui est peut-être plus intéressant pour vous, même si vous vendez par le canal libraire.
C'est compliqué. Cette discussion est compliquée parce que d'un côté, oui, ça aide. Les ventes directes nous permettent d'avoir l'argent directement et d'avoir 100%. Voilà. Mais le réseau libraire, il ne faut pas sous-estimer le réseau libraire.
Pas du tout. Moi, je suis un peu
convaincu. Non, mais je préfère le préciser. Pourquoi je dis que c'est important aussi de soutenir en librairie ça ? Tout simplement parce que acheter en librairie, certes, on touche moins d'argent, c'est sûr et certain. Mais en revanche, ça va nous permettre de fidéliser un libraire. Le libraire, surtout sur les premiers tomes. Quand il va commander, lui, il va donner la chance au produit sur les premiers tomes. Si derrière, les acheteurs ne suivent pas, sur les tomes suivants, il va réduire ses quantités.
Il va être
exactement. Rigolo. Et donc, c'est important de soutenir l'achat une série. Si vous voulez soutenir une série, c'est important d'acheter en librairie.
Ok, bah super, merci Aurélien pour ça. Moi j'avais une question, parce que c'est un truc assez qui est un peu dans la thématique du moment. Comment est-ce que vous gérez, vous, ce qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est la crise du papier. Est-ce que vous êtes impacté? Est-ce que c'est dur à gérer? Comment vous arrivez à gérer ça en tant que maison d'édition indépendante?
En fait, on est tous impactés par la crise du papier. Tout simplement parce que y a eu... beaucoup de problèmes pendant la période du Covid. À ce niveau-là, je vais revenir dessus juste rapidement. En 2019-2020, il y a eu la fermeture de 3 entreprises de papeterie, donc 3 papetiers qui ont fermé, qui faisaient dans le nord de l'Europe, hein, Suède, Norvège et compagnie, tu vois, c'est là où il y a les arbres, etc., pour faire le papier. Et il y a pas mal de papetiers qui ont fermé à ce moment-là, ce qui fait que mécaniquement, ou se sont reconvertis dans le carton. Voilà, il y a des papiers qui sont fermés, soit qui sont reconvertis dans le carton, parce que il y avait une demande à l'époque qui était, il y avait des médicaments à faire, il fallait bien les emballer ces médicaments, plus Amazon qui arrivait en même temps.
Ah, ouais, ce que j'allais te dire, les emballages d'Amazon.
On était tous confinés.
Ouais, Amazon pèse un peu.
Non, mais on était tous confinés, ouais. Forcément. Les papetiers qui ne vendaient plus de livres de papier parce que c'était fermé, se sont reconvertis donc dans le carton. Et certains ne sont pas revenus au papier. Parce qu'ils ont trouvé que le carton était beaucoup plus rentable, ils sont restés dedans. Donc déjà, il y avait ce premier problème qui est arrivé. Ensuite, il y a eu des imprimeries qui ont fait faillite, évidemment, pendant cette période-là, surtout en Europe de l'Est. Ce qui fait que la demande, on va dire, s'est accrue, on va dire, auprès de ces entreprises-là, auprès de ces imprimeurs. Et du coup, il y a eu une hausse générale et un encombrement, on va dire, des éditeurs, parce que tout le monde, vu qu'il y a des imprimeurs qui ont fermé, il faut bien se rabattre vers quelque part. Donc, il y a eu un encombrement des commandes à la fin du Covid, quand tout le monde s'est remis dessus, genre « Eh, je veux mon livre !» ils vont toucher les mêmes imprimeurs et certains savoir-faire, notamment dans le manga, il y en a que quelques-uns qui font du manga. Tous les imprimeurs ne peuvent pas faire du manga en Europe. Et je parle bien de l'Europe entière. Il y en a 4-5 qui savent faire vraiment du manga. Donc forcément ça reste plutôt limité à ce niveau-là. Donc il y a mécaniquement une augmentation des prix qui s'est faite et mécaniquement aussi une deuxième augmentation des prix qui a eu lieu à cause de la guerre en Ukraine et des transports les pénuries en carburant, les pénuries en électricité, ce qui fait que forcément le coût de production a augmenté. Et c'est pour ça qu'on a eu des hausses de 15%, 20% une première fois, puis 15%, 20% une deuxième fois, et là tu commences à faire un peu la gueule à ce moment-là, tu te retrouves, et tu te dis, plus ça augmente, plus t'as déjà la. Je veux pas non plus faire pleurer, genre faire le miséreux, mais la marge d'un livre. Pour un éditeur, elle est fine parce que il y a beaucoup d'intermédiaires. Il y a l'auteur, donc l'ayant droit que tu dois payer, c'est en général autour de 8%. Tu as l'imprimeur que tu dois payer, qui est autour de 15-20%, surtout 20 maintenant, plutôt même 22 maintenant on peut dire. Tu as le distributeur diffuseur qui va prendre ses 20-25%. Et t'as le libraire qui va prendre 35, mais derrière il va enlever tous ses coûts. Ce qui fait que pour un éditeur va toucher entre 12% à peu près, 12-15% moins ses prestataires. Et donc en réalité la marge elle est de 8, entre 6 et 8% la marge commerciale d'un éditeur. Donc c'est relativement peu. C'est pas avec ça que tu vas te dire je vais être multimilliardaire. Ça n'arrive pas.
Nous allons être riches.
Vas-y, je balance de la thune. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas le cas. On ne fait pas ça. Sauf. C'est pour ça que la solution pour les éditeurs, c'est de beaucoup publier, d'inonder le marché pour compenser, on va dire ça. Et c'est là où il y a tout le problème de. Mais si tout le monde fait ça, il n'y a plus de place. Voilà. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue à ce niveau-là. Et donc pour revenir à mon sujet, c'est pour ça que du coup les éditeurs ont dû pour beaucoup contrebalancer, on va dire, leurs coûts de fabrication sur les prix de vente. Et c'est pour ça qu'on a vu légèrement des hausses de prix récemment chez Mao. Hein. Chez Mao, on a augmenté le prix de 20 centimes sur les mangas parce qu'on était obligé. On est passé donc de 7,40 à 7,60 parce qu'on était obligé de le faire en fait pour compenser en fait cette hausse trop importante parce qu'on ne pouvait plus le faire, on ne pouvait plus supporter cette dépense. Voilà. Donc mais il y en a d'autres. Il y a eu Mangetsu, il y a eu Crunchyroll, il y a eu Kana, il y a eu tout le monde a augmenté un peu ses prix, ce qui est.
Oui. Enfin, Kana vient d'annoncer des hausses à l'instant là.
Donc il y a eu des hausses de prix. La bonne nouvelle dans ce secteur là, c'est que récemment j'ai vu que ça y est, la hausse s'arrête côté papetier et imprimeur. Donc il y a bonne nouvelle, on a eu une légère baisse là au mois d'avril, mars-avril, qui est de alentours 2023 hein, pour ceux qui écouteront ça plus tard en replay, qui est de l'ordre de 10%. Ouais, t'as vu, je suis gentil, hein, je pense même à tes...
Ah ouais, c'est bien.
Futur.
On date le podcast dans temps. C'est très bien, il faut.
Et donc du coup, là, on a eu une légère baisse de 10% à nouveau des coûts. Alors ça s'explique aussi parce qu'il y a un peu moins de commandes en ce moment. Mais ça présage, on va dire, au moins une légère stagnation de cette hausse, on va dire. On l'espère. S'il n'y en a pas d'autres qui vont augmenter d'autres moyens. En tout cas, côté imprimeur, ça commence à se calmer.
Ouais, mais de toute façon, c'est un marché ultra complexe. Hein. L'offre et la demande est de plus en plus compliqué à gérer. Donc, malheureusement, c'est complexe. Hein.
D'où, ça me fait me poser une question. Le positionnement sur le numérique, du coup, est d'autant plus stratégique qu'il faut qu'il compense, j'imagine, aussi un petit peu, pas le marché, mais en tout cas les potentielles pertes qu'il puisse y avoir sur la partie physique.
Ça, c'est dans un monde idéal, ça serait vrai. Dans un monde idéal, ça serait vrai. J'aimerais beaucoup, je souhaite de tout cœur, je suis le premier à soutenir le numérique, parce que je pense que c'est aujourd'hui un marché qui a de l'avenir. Mais aujourd'hui, il faut remettre un peu l'église au milieu du village. Hein. C'est qu'aujourd'hui, le marché du numérique, c'est un marché qui touche essentiellement les gros lecteurs. Qui touche, je crois qu'on est à 26% des lecteurs seulement.
Ah, ouais, ok.
Ça,
C'est pas si mal,
mais on est très loin des États-Unis ou du Japon, qui sont. Alors, les États-Unis sont à 50% de lecteurs, plus de 50% de lecteurs qui lisent en numérique, ce qui est énorme. Au Japon, ils sont à près de 75-80%. Hein.
Il y a une vraie transition,
une vraie bascule à ce niveau-là.
Il y a une histoire aussi que j'ai appris qui est tout bête, c'est que en fait le manga est au même prix que le numérique.
Chez nous, tu veux dire ?
Non, au Japon. Au Japon, il y a pas de différence de prix entre le prix du numérique et le prix du manga. Je pense que tu sais, aujourd'hui, c'est une théorie un peu con, hein, ce que je vais dire, mais je pense qu'il y a du sens. Aujourd'hui, les gens, quand tu as en fait un médium qui est moins cher que le format papier, ça donne en termes de côté pas luxe, mais en termes de volonté, quand c'est un peu plus cher, tu te dis ah c'est parce que c'est de meilleure qualité. Par contre, quand tu positionnes deux produits au même prix, tu te dis bon bah tu peux plus te dire bah tiens ouais ça veut dire que en termes de qualité, en termes de rareté, pas mieux mot, mais vous voyez ce que l'idée un peu c'est. Et je pense qu'au Japon en fait le fait d'avoir fait ce move, d'avoir mis le numérique au même prix que le papier, ça met en fait les deux médiums en fait au même niveau. Donc forcément ben peut-être c'est plus simple pour les Japonais d'acheter en numérique.
Peut-être. Je pense qu'ils ont surtout eu une grosse politique de magazines de prépublication qui ont réussi à sauter le pas. Ouais. Donc c'est un peu différent de ce que nous on a en Europe, en France notamment, et par rapport aux États-Unis. Aux États-Unis, ce qui est arrivé en fait, c'est qu'ils avaient Amazon qui est arrivé avec son Kobo Kindle,
ça a roulé sur le marché physique.
Donc, à partir de là, ils ont pu faire une politique de prix très agressive dans le format numérique. Ce qu'en France, on a dit non directement. on avait le prix unique du livre déjà en France. Et les éditeurs à l'époque, donc là, on remonte 20 ans en arrière, 10 ans en arrière, je vais un peu trop loin, où ils ont freiné un peu l'arrivée d'Amazon en France. Parce que les éditeurs de format physique ont eu peur en réalité d'Amazon à l'époque, ce qui fait que en gros ils ont freiné aussi la commercialisation de liseuses type, parce qu'à l'époque il fallait une liseuse, et de ce fait on se retrouve avec ce que n'a pas l'Allemagne par exemple. L'Allemagne a réussi à un taux beaucoup plus important que nous en termes de lecteurs numériques. Ce que nous on a vraiment pas en France, et ce qui fait que la diffusion numérique, la distribution numérique est beaucoup plus compliquée aujourd'hui à faire que dans d'autres pays européens où c'est beaucoup plus facile. Et en règle générale, pour une maison d'édition, je parle bien d'une maison d'édition, à l'époque, si je remonte quelques années en arrière, c'était 2% du chiffre d'affaires d'une maison d'édition. Donc c'est vraiment peu. Là, je pense qu'on est entre 5 et 10% aujourd'hui. Le numérique correspond à ça à peu près.
Ça reste une belle progression,
mais ça reste 5% du marché, d'un chiffre d'affaires d'une maison d'édition. Ouais. Donc la hausse, on parlait de la crise du papier tout à l'heure, en disant la question c'était est-ce que ça contrebalance ? Pas encore. Mais voilà,
on aimerait, mais
comme ça, en fait. Bon, aujourd'hui, le marché numérique, c'est une formidable porte d'entrée vers le format print. Vers le format physique, parce que
je suis complètement
voilà. À partir de là, et je parle bien du format du cycle légal. Hein. Je parle pas du cycle pirate. On parle bien du cycle légal, parce que il y a un cercle vertueux qui s'organise. L'auteur est toujours payé, et ça c'est important de le préciser. L'auteur est toujours payé dans le cercle vertueux légal, le produit numérique sert d'outil à l'achat du print. Dans ce cas-là, et respecte la volonté de l'auteur.
Ouais. Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que le numérique prend de plus en plus de place. Il libère aussi de la place dans les bibliothèques, hein, faut se le dire. Moi, je sais que, avec Val, on est les convaincus du numérique. Mais c'est intéressant parce que du coup, ça fait le lien avec la question que je voulais te poser. C'est que aujourd'hui, vous avez fait le choix donc du papier, mais vous êtes aussi présent sur pas mal de plateformes numériques, que ce soit à l'achat ou que ce soit dans des formules à l'abonnement. Qui sont dans un package illimité. Et ça, mine de rien, comme tu disais, c'est une bonne porte d'entrée quand même pour vous découvrir.
Tout à fait. Bah, déjà, on est chez. En fait, on suit toutes les formules qui existent. On soutient. En fait, on est vraiment dans une optique de soutenir le numérique. On est vraiment dans cette idée de on y va, on fait des choses. On essaye de pousser le numérique par des opérations communes, ce genre de choses. On a Manga.io, déjà, avec la formule par abonnement. Donc on fait de l'abonnement avec Mangayo. Isneo aussi. Isneo fait aussi de l'abonnement, tout en plus de, ouais, du paiement à l'acte. Mais on fait et on fait aussi avec Picoma, qui sont qui est notre qui est le deuxième plus gros acteur pour nous, avec Mangayo. Enfin c'est les deux. Ils sont. Je veux pas faire de classement entre les deux. Avec, oh avec non, Picoma, c'est pas le but, hein. C'est un paiement en coin en fait qui se fait. Mais ils ont un système de un peu freemium, modèle freemium, de tout est gratuit pendant 24 heures. Pendant les premiers chapitres sont gratuits évidemment, mais une fois que tu veux lire les suivants, tu as un système de wait until free sur 24 heures où tu dois attendre 24 heures pour consommer le suivant. Et donc forcément, ça incite à se reconnecter tout simplement, mais surtout aussi, si, ouais, pour les plus impatients, à payer des coins pour pouvoir lire la suite plus vite. Et pour nous, c'est ce modèle-là, avec le modèle de l'abonnement, qui pour nous nous permettent de que nos titres existent, on va dire. Ils nous permettent de dire tiens, j'avais lu ça quand j'étais sur Mangayo ou sur Picoma, j'ai beaucoup aimé, j'aimerais bien l'acheter en manga. Papier. Et c'est comme ça que ça se fait souvent. Alors évidemment, on a toujours le réfractaire qui dit ah, mais je l'ai déjà lu. Sans préciser où. Tintin, je te vois, on sait qui tu es. On te voit en salon et t'arrives vers nous en salon, tu fais ah, ça, je l'ai lu, c'était super. Et tu fais bah, tu prends. Ah non, mais je l'ai lu en scan. Voilà.
Non, mais c'est fou comme de l'assumer.
Ah, ça, c'est ces moments-là où tu as envie de. C'est comme ça, tu fais. Et au moins la décence de pas me le dire en face. Genre, fais genre que tu l'as lu. Même, fais-moi genre que tu l'as lu sur Mangayu. Je m'en fous. Fais genre que t'es un bon consommateur. Je m'en fous, mais dis-le-moi pas en face. Quoi. Moi, après, j'ai le seum.
Bah oui, c'est d'autant plus frustrant. Enfin, bref, c'est comme ça.
Malgré tout, ça reste une grande partie aussi de l'audience, même si c'est un circuit.
Non, mais c'est le. On n'est pas fou. On sait.
Ouais, bien sûr.
On est conscient de ça. Hein, mais ne pas me le dire à moi, l'éditeur légal, tu vois, le représentant de l'auteur sur Terre, tu vois, amen. Tu peux pas le dire, c'est un peu genre bonjour, je te fais un gros doigt et j'avance et je te dis, je m'en bats les couilles. Tu peux pas le dire comme ça.
Et c'est. C'est des enfants ou plutôt ou t'as même
des ados adultes.
Ah waouh.
Ah c'est le pire, les adultes quand même. Parce que les enfants, tu peux te dire c'est la naïveté, c'est de la.
Non, souvent dans ces moments-là, je fais ok, t'achètes alors. Et je le mets, je change le malaise exprès histoire de dire ah t'es sûr, il y a les tomes, il y a les trois tomes.
Très bonne strat.
Non, c'est
dispo. Hein.
C'est dispo. T'as adoré. T'as même un goodies. Non, j'exagère un peu. Non, on est gentil. J'essaye de faire de la pédagogie comme là en disant que c'est important de soutenir le format. En plus, ils sont disponibles quasi gratuitement. En plus, dans certains cas, je veux dire, nos partenaires, nos distributeurs, proposent plein d'opérations où ils sont gratuits ou quasi gratuits dans certains cas. Je veux dire, c'est maintenant le système, le formal, la formule légale en digital. En numérique, pardon, aujourd'hui, enfin on dit numérique, permet de rester dans le droit chemin, on va dire. On n'est pas obligé aujourd'hui de consommer pirate pour. Tu m'aurais dit ça il y a 20 ans, ou il y a 10 ans, ou il y a 15 ans. Ouais, j'étais le premier à le faire, je le dis, je l'assume, j'en peux, c'est enregistré. Moi-même, j'ai lu en pirate.
Évidemment. Voilà,
mais c'est parce qu'il y avait un manque d'offres à l'époque. Là, aujourd'hui, il y a une offre qui est tellement importante qu'aujourd'hui, moi, à titre perso, j'ai pas le temps de tout pirater pour tout lire. Donc aujourd'hui, j'ai les lectures sur Mangayo. Après, moi, je passe par Google Play pour acheter mes numériques, mes livres en numérique. Mais déjà, une fois que j'ai fait ça, et qu'en plus de ça, j'ai mes livres en physique, il me reste plus beaucoup de temps. Hein. Donc, à part augmenter virtuellement ta pile à lire et dire j'ai ça à lire.
La pile à lire est beaucoup trop grande. Moi, je suis client de. Je suis client de ça. Je suis sur chaque plateforme, que ce soit Mangayo ou Picoma, sur ces deux plateformes-là principalement. J'en suis à 130. Sur Picoma, par exemple, je suis à 130 livres lus. Je suis 130 séries. Je n'arrive pas à m'arrêter. Je passe des heures dessus. Je peux passer des heures.
Non, mais c'est super. Donc, le numérique.
Je n'ai pas besoin de les acheter. Et c'est pareil pour Mangayo. Je lis des choses que je n'aurais pas lues normalement. Enfin bref, je.
Ça, c'est clair. On en avait parlé avec Kevin, ça, de, ouais, puis de, justement de ça.
C'est important de le préciser. Je trouve que le numérique, aujourd'hui, il y en a plein qui, ont, qui soit font le raccourci en disant on lit sur le téléphone ou on lit sur l'ordinateur. Mais en vrai, ce n'est pas le format le plus confortable. Moi, aujourd'hui, j'ai, tous ceux qui sont passés au numérique, je leur ai dit, prends une tablette, tu verras, ça va faire la différence. Et bien, tous ceux qui ont pris une tablette et qui se sont mis au numérique, ils ont dit, ah ouais, ça change
et,
la vie.
Et moi, je pourrais dire encore plus, c'est top, prends un livre, un vrai.
Oui, non mais oui, oui, bien sûr. Non, mais on est d'accord. Non, non, mais là, comme on était sur le sujet du numérique, c'était, je trouvais le meilleur outil pour le consommer. Après, oui, le format papier, c'est.
Bah, ça, et c'est ça, là, ça et c'est là où, justement, en fait, les deux vont de pair. Pour moi, les deux ne sont pas incompatibles, justement.
C'est complètement. Complètement.
En termes de confort, enfin, si tu lis dans les transports en commun, et d'ailleurs, il y a des études sur ça qui ont prouvé que la lecture numérique se fait essentiellement dans les transports en commun. Parce qu'on n'a pas la même lecture, on a une lecture plus diagonale, plus consommation, plus consommatrice de rapidement pour meubler le temps. Mais un livre, c'est pas la même chose. On se donne le temps de le prendre. On se donne la chose. Et donc, voilà. La lecture est beaucoup plus agréable quand on lit un livre que quand tu lis en numérique. Parce que ce n'est pas le même usage que tu en fais. Et à partir de là, comme l'usage est différent, et ben, en fait, les deux sont complémentaires.
Complètement. Non, non, mais c'est sûr. C'est sûr que c'est. Ouais. Je pense que les deux peuvent très bien coexister. Et la preuve, moi, j'alterne entre le numérique et le papier sans aucun souci. Et j'aime toujours lire le papier. Donc c'est...
Alléluia.
Mais c'est, après, c'est plutôt des problématiques de place qu'il faut arriver à gérer. Qui, bon, moi, ce souci-là en numérique, il faut se le dire.
C'est sûr.
On va revenir un peu sur le cœur du catalogue, et moi j'ai envie de donner un peu de précision, parce que je sais pas si nos auditeurs lisent du light novel, parce que, voilà, j'ai appris en off qu'on disait un light novel et pas une light novel, donc je fais un mea culpa. Mais est-ce que tu peux nous dire d'ailleurs ce que c'est un light novel pour voilà, qui comme nous on savait pas trop ce que c'était, et puis
moi j'assume, je vais l'apprendre là maintenant en direct avec Aurélien, parce que je ne sais pas ce que c'est. Je suis incapable de dire ce que c'est.
Et c'est intéressant que tu nous le précises, parce que ça fait partie, c'est une grosse partie de votre catalogue, et voilà, dis-nous un peu, donne-nous envie de lire des light novels.
Un light novel, c'est très simple. C'est un roman avec des illustrations manga à l'intérieur. C'est tout simple, tu vois. Et en fait, c'est un roman qui va illustrer les scènes clés du récit, et qui va, rendre ça plus agréable, et qui va permettre de se plonger plus facilement dans l'histoire. Donc ça, c'est la base. Évidemment, un light novel, c'est un... Tu vas me dire, quelle différence? C'est juste un roman illustré, en fait, c'est juste ça? Non, c'est un peu différent. Un light novel, le light de novel, c'est le light de agréable. C'est le light de facile à lire. C'est le light de on va pas se prendre la tête, tu vas dévorer ton bouquin en 4-5 heures, c'est fini, après t'es tranquille. Tu vois? C'est pas, on va pas avoir les 15 pages de description de à la Tolkien. Exactement. Tolkien. Les 15 pages de description de Minas Tirith, ouais. Là, ou les 75.
Ou Martin.
Ou de la forêt, ou du Hobbitbourg, là on les a pas, là, tu vois? Non, là, il y a moins de descriptions, il y en a un peu, hein, pas beaucoup, hein. Mais il y a plus d'action. Et en fait, tu vas te retrouver avec un roman facile à lire. Avec un format un peu épisodique comme on sait bien le faire dans les mangas ou dans les animés, c'est-à-dire avec des bons cliffhangers au bon endroit, etc. Et tu vas te retrouver, en fait, à dévorer très vite ta lecture, et à la fin, tu vas faire « Oh, bah, j'ai fini, bah, il me faut la suite !» C'est ça. Donc, pour résumer, un light novel, c'est un roman, un peu un roman de gare, qui se lit normalement, et qui est ponctué d'illustrations en couleur au début et en noir et blanc ensuite, tout au long du récit.
Pour le coup, je pourrais être la cible de ce genre de truc, parce que j'ai du mal à lire des gros romans un peu trop descriptifs. Typiquement, moi je suis fan de, on parlait de Game of Thrones tout à l'heure. On a fait des refs à Game of Thrones tout à l'heure. Moi, j'ai lu la nouvelle, justement, du Chevalier Errant. Mm-hmm. Enfin, les trois nouvelles. J'ai pris un plaisir monstre à lire ça, parce que ça se lit très bien. Par contre, les tomes de Game of Thrones, c'est une galère.
C'est un peu gros, quoi.
C'est un peu gros. Ouais, c'est gros, et puis c'est beaucoup de descriptions. Mmh. C'est très dense. Bah,
on n'est pas du tout dans ça dans les light novels. C'est très fluide, c'est très facile à lire. Évidemment, y en a de tous les niveaux. Hein. Évidemment, il y a des light novels qui sont plus pour un public détente, etc., ado adulte, etc., plutôt ado même à ce niveau-là. Et t'as des light novels pour adultes où ça va traiter de sujets un peu plus sombres, un peu plus recherchés, avec un peu plus de descriptions et un peu plus de tournures. Mais dans la règle générale, C'est très facile, c'est très agréable à lire. Là, je prends l'exemple de 86, qui est un de nos light novels. Là, on a un niveau un peu plus haut en termes de description, etc. Mais ça reste très léger, ça reste très agréable à lire dans cela.
C'est ce qu'il faut pour pouvoir se mettre aussi dans l'œuvre et tout ça, quoi.
Tu peux nous pitcher rapidement 86, t'en parles justement pour les auditeurs.
Ben, 86, imaginez, t'es dans un monde où une armée de drones tueurs veut éradiquer l'espèce humaine, genre Terminator. Tu vois. Et t'as le dernier bastion de l'humanité qui s'appelle la République de San Manuelia. Typiquement, l'attaque des Titans, hein, dernier bastion, etc. Tu vois. Okay. Ce gouvernement se targue de valeurs comme la liberté, l'égalité, la fraternité, la justice, la noblesse, tout ça, tout ça. Et qui se targue de mener une guerre sans aucune perte humaine. Personne ne meurt dans cette guerre officiellement. Évidemment, la réalité est différente puisque le gouvernement a décidé de déchoir de leur humanité toutes les personnes qui ont des couleurs de yeux différentes, des couleurs de cheveux différentes, des couleurs de peau différentes. Et toutes ces personnes-là sont donc déportées et dans le 86e district, okay, où ils sont envoyés à la mort contre l'armée de drones tueurs, où ils meurent par millions dans des chars à moitié pourris, et ils meurent par millions, mais il n'y a pas de perte humaine, vu qu'ils ne sont pas humains.
Réfléchis.
C'est exactement ça. Et donc on va suivre deux personnages, un 86 et une commandante du camp des oppresseurs qui va essayer de rétablir leurs droits et les sauver. Voilà.
Ok.
Ok. Ouais,
c'est... Donc typiquement un sujet quand même beaucoup plus
lourd, un peu plus lourd,
lourd et entre guillemets
c'est
profond.
Ça. Ça
va
parler. Une tragédie, ça tend vers la tragédie, mais en même temps, c'est de la science-fiction, c'est de la guerre, c'est très fun à lire. En light novel, pour le coup, c'est très très bien écrit, tu vois. Et pour le coup, le manga, je devrais pas le dire, mais je le conseille moins parce que, un, il s'est fait arrêter en cours de publication, donc ça c'est moins cool, et deux, il y a moins de détails, c'est moins beau que le light novel, et l'animé, puisqu'il y a un animé, se rapproche du roman et sont assez complémentaires l'un avec l'autre. Ça c'est sympa à lire les deux, même lire le roman et ensuite passer sur l'animé ou vice versa, c'est pas mal. Je conseille. Et d'ailleurs, ça permet de rebondir. Okay. Tu me permets de rebondir sur un sujet intéressant, c'est que souvent les light novels sont les romans d'origine. Ce sont les romans d'origine de certains mangas et de certains animés. Voilà. Je prends l'exemple de Sword Art Online, Overlord, Goblin Slayer, Slime, 86, Berserk of Ultoni. Au départ, c'était light novel.
Ok. 86, j'avais vu le trailer de l'anime maintenant que tu m'en parles. Je suis en train de checker en même temps. Et oui, en effet, ça me parle.
Non, très, très bonne série, je te conseille. Mais voilà, ce sont des romans. Et souvent, ce sont donc des romans qui sont... Alors, tous les romans, tous les light novels, les mangas ne sont pas issus de light novel, mais c'est important de le préciser.
Ouais.
Mais il y a beaucoup aujourd'hui. De manga qui ont d'abord été des light novels avant, et c'est un médium qui n'existait pas en France jusque dans les années 2010, même 2012 avec l'arrivée de Ophelbe, disons-le, mais qui est très important au Japon dans l'écosystème, et qui s'implante peu à peu en France, on espère.
Ouais, il y a un vrai marché à prendre. Ouais, complètement.
C'était populaire au Japon, ça existe depuis plus longtemps au Japon, le light novel.
Ouais, les light novels, ça existe depuis les années 80 même. Donc c'est très vieux, aussi vieux que l'industrie du manga presque en fait. En fait, tout simplement parce que à l'époque, il y a beaucoup d'auteurs de light novel. Qui sont des mangaka qui n'ont pas réussi à le devenir. C'est ce que
j'allais dire.
Les illustrateurs. Hein, je parle pas des illustrateurs de light novel. Hein.
Oui,
mais les
scénaristes,
c'est souvent des gens comme toi et moi qui se sont dit tiens putain, j'aimerais trop faire une histoire, une grande saga épique où se passerait ça, mais je sais pas dessiner.
Voilà.
Souvent c'est ça. Donc il y en a beaucoup qui ont les réflexes du manga, ont la narration d'un manga, mais l'ont mis en roman et ont été assez.
Ah, ça doit être intéressant d'avoir ce côté narration dynamique du manga adapté au format roman. C'est ce qui donne, je pense, cette fluidité de lecture. Exactement. Derrière. Ok. Super. Tu voulais rajouter quelque chose, toi, Val, ou c'était bon pour toi?
Non, c'est j'ai appris plein de trucs. C'est
bon.
Cool.
Eh ben, c'est top. On va gentiment conclure notre petit échange avant d'attaquer. Forcément, on va parler on va reparler de light novel avec Berserk of Luconi.
Des mangas.
J'ai un peu zozoté. Et des mangas. De zozoté un peu. Moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est souvent, voilà, on pose souvent ça à nos invités, où c'est leur première fois dans le podcast. C'est, déjà, je veux savoir un peu ton parcours de lecteur. C'est quoi ton rapport au manga, au sens général, même si je sais que tu nous l'as dit, tu es un grand lecteur de light novel, mais par rapport au manga, comment est-ce que tu te positionnes? C'est quoi tes premières découvertes?
Déjà, je suis un grand lecteur de livres tout court. J'ai toujours été un gros lecteur de livres. Okay. Donc en parallèle des romans, j'ai lu beaucoup de romans. J'ai lu énormément de romans, que ce soit du Robin Hobb, du Gemmell, du okay. Tolkien, du Game of Thrones.
Ah, moi je dis Gemmell, ça se dit Gemmell.
Je sais pas, je sais jamais comment le dire. Moi il y a un U dedans, donc ouais. Je prononce Gemmell, mais ça se trouve tout le monde me dit que c'est Gemmell, okay. Mais je sais jamais le prononcer.
Ouais,
peut-être.
Donc David Gemmell ou Jamil, ouais. Gemmell pour ceux qui.
Vous me donnerez la réponse, hein. Un jour.
Oui, on demandera aux auditeurs de venir nous le dire. Honnêtement,
j'ai été un gros lecteur de ces livres-là. Et je me suis intéressé au manga, bah, évidemment, comme ceux de ma génération, grâce à Jetix, Fox Kids et Canal J, ces chaînes du câble qui te permettaient de regarder. Pokémon, Yu-Gi-Oh et compagnie.
Les gens le voient pas, mais ça parle plus à Val, parce que je pense que vous êtes de la même génération. Ouais, moi, ça me parle pas.
Là, t'as dit Jetix. Wow, déjà...
Tu t'es pris un coup de nostalgie, wow. Là, tu t'es pris. Avec Shaman King, avec Madoka, avec, comment ça s'appelle, Doremi Magique, Medabots et compagnie. Hein. Voilà. Bref, toutes ces séries-là, un peu, ça a été un peu mon enfance. Mais à l'époque, je ne savais pas que c'était des mangas, évidemment, parce que pour moi, c'était des dessins animés, tout simplement.
Bah oui,
j'étais
oui.
Déjà un gros fan à l'époque, semblerait. Avec le recul, maintenant, j'étais déjà un geek sans le savoir, un otaku sans le savoir.
Ouais. On était tous des geeks sans le savoir.
Comme beaucoup, hein. En vrai, comme beaucoup.
Et ensuite, j'ai eu un rapport, celui qui m'a fait vraiment découvrir, vraiment, où là, à ce moment-là, je me suis dit, c'est un manga. Il y en a deux, c'est Naruto, évidemment. Parce que à l'époque, je l'ai regardé même sur Dailymotion.
Ah ouais,
à l'époque, on avait encore on avait encore c'était pas la DSL, c'était le truc, c'est contendu donc.
Ouais, le 56K.
Tu sais, avec un modem, ce vieux truc un modem, ouais. À l'époque où tu mettais 40 minutes ou 50 minutes pour lancer une vidéo sur Dailymotion. Et je me rappelle quand j'étais plus jeune, je me suis lancé sur ça avec Naruto en japonais. C'est les premiers animés japonais que j'ai vus. Et à côté, évidemment, c'était Yu-Gi-Oh. Voilà, qui étaient mes deux shonen de l'époque, mes deux mangas d'aventure, action, ado que je consommais à balles. Et
en même temps,
et
on doit être dans la même génération, on pouvait pas y échapper.
Mais tant mieux, impossible. On va dire. On est de la même génération, donc on peut dire qu'on avait un rapport au manga un peu différent d'aujourd'hui, où le manga était vu comme le côté tu lis des mangas, ce côté genre, ouais. Ces gens. C'est un peu, ouais, comme oui. Toi, tu vois, comme toi, Seb.
Ah ouais, c'était déjà.
On n'en parlait pas,
hein, ça se disait pas, c'était la honte.
Et j'ai même rajouté un petit élément, c'est que, alors, moi, mon époque, et là, quand je dis ça, ça fait vieux con, mais je suis désolé, hein, mais c'est ça, je suis plus vieux, donc c'est normal. Mais à mon époque, on n'avait pas trop les mangas, mais on avait cet effet-là qui s'est déporté après sur les mangas sur votre génération, mais c'était les jeux vidéo, nous. Quand on parlait jeux vidéo, t'étais tout de suite catalogué.
C'était même sur notre génération, les jeux vidéo.
Ouais, hein. C'était pareil.
Non, à l'époque.
Oui, là, mais ça s'est décalé aussi sur les mangas
ça
aussi.
Ça fait un peu.
T'assumais pas trop, quoi. C'est ça, les stars du lycée aujourd'hui, c'est les lecteurs de mangas et qui jouent à Call of Duty, quoi. C'est
donc ça a bien changé, mais tant mieux, hein, dans un sens, parce ouais, que c'était pas la meilleure époque de dire qu'on aimait les mangas. On passait un peu pour tu lis ces japonaiseries.
Non,
c'était moi je me rappelle très bien des gens qui me faisaient et même de mon père qui disait ouais les mangas c'est tu vois c'était ça, hein. C'était mais y a pas de texte dedans, y a que des onomatopées. Merci papa. Ouais.
Tu devais avoir aussi le même genre de rumeur que, tu sais, les joueurs de jeux de rôle, il y a des gens qui sont morts.
Tout à fait, exactement, exactement. Ils ont mis un nom dans une Death Note et ils sont morts. Voilà.
Ils sont morts. Voilà. Il y a des gens qui sont devenus fous en lisant
exactement.
Des mangas.
Exactement. Donc ensuite, bien, évidemment, il y a eu... là, on remonte à la partie collège où il y a eu une grosse phase de... Bah, en fait, moi, c'était les années 2000. Hein, donc, c'était, ça a été Fate Stay Night, ça a été Code Geass, ça a été Death Note, toute cette partie-là qui ont un peu meublé ma génération. Et j'ai eu un rapport au manga très porté par l'animé, puis ensuite par le livre. Ça, c'était plutôt la seconde, okay. Où là, j'ai eu un manga qui m'a un peu changé, on va dire, et qui m'a lancé dans le papier en frénétiquement. Qui a été Broken Blade chez Doki Doki. Broken Blade chez Doki Doki, qui était un manga de mecha.
Une
épée brisée, okay. Etc. sur la tête,
oui.
Qui était excellent.
Exactement.
Qui, c'est dans mon plus grand malheur, n'a jamais été édité par Doki Doki après le tome 10. Et Doki Doki, je vous vois comme ça, là. Je vous en voudrais toute ma vie de ne pas avoir fini la série. Mais bon, je vous aime aussi parce que.
Mais comme beaucoup de mecha. Hein. Les mangas de mecha.
Je crois que c'était un problème d'ayant droit, là, à l'époque. Parce que l'ayant droit a voulu augmenter son minimum garantie et le tirage, ce qui fait que Doki Doki ne pouvait plus suivre. Bref, c'était une autre époque aussi. Mais bref, pour revenir à cette idée, je me suis lancé après beaucoup. J'ai beaucoup acheté au période lycée. Et à côté de ça, je faisais ce qu'on appelait à l'époque. On parlait du piratage, mais à l'époque, tu remontes 10 ans en arrière. Forcément, pour consommer, il n'y avait pas Wakanim, il n'y avait pas Crunchyroll, il n'y avait pas ADN. Donc il y avait du fansub. Non. Et moi, j'ai fait du fansub pendant des années. Et c'est ça qui m'a donné la passion ensuite de me dire un jour, je sais faire, je peux le faire, et j'en ai fait mon métier. Voilà. Yeah, mais ça remonte. C'est...
Tu parles japonais?
Pas du tout. Pas du tout.
Ok, c'est une question. Non,
non,
que
pas
poser,
du tout, parce que je laisse ça à des vrais professionnels qui sont des traducteurs.
Ok.
Et je ne veux pas.
Mais tu pourrais avoir des
notions. J'ai des notions, j'ai animé troisième langue. Je parle très bien animé troisième langue, mais je suis fluent.
Ah bah,
fluent.
Tout le monde, quoi.
Vraiment.
Ah ouais. Il s'achète les
choses. Il y a les Dazé, Date Bayo, les insultes aussi, très bien, voilà, ce genre de choses. Non, ça, je maîtrise très bien l'animé, la langue animée.
Ah ouais.
Je pourrais écouter un animé presque en le comprenant presque intégralement, mais je suis pas capable de le parler. Je suis incapable de le parler, et à ce titre, je préfère m'occuper de la correction. Et de ce genre de choses, okay. Plus que de la traduction, parce que ce n'est pas mon métier. Et c'est tant mieux, d'ailleurs, parce que les traducteurs, c'est un métier ultra compliqué, c'est un métier ultra important.
Oui. Je trouve ça très bien qu'ils soient remis sur le devant de la scène, parce qu'on les a longtemps... Enfin, c'est pas caché, mais c'était pas mis en avant. Et là, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'éditeurs qui commencent vraiment à remettre le boulot de traducteur en avant, et c'est très bien, parce qu'on en a besoin. Mmh. Et une bonne traduction fait un bon manga, souvent, aussi.
Et une bonne traduction fait un très bon Hélène, aussi. C'est d'autant plus important d'avoir en light novel des bons traducteurs, des bons correcteurs parce que c'est d'autant plus dur en fait. C'est même plus dur pour certains, pour beaucoup de traducteurs, ils nous le disent, c'est plus dur de traduire un roman, ce qui est normal, hein, c'est un roman, qu'un manga, parce que y a beaucoup plus de vocabulaire aussi.
C'est ça. Ouais, non, mais exactement.
Puis en plus, le manga, t'as le support visuel qui peut t'aider à comprendre certains contextes de phrases, etc.
Donc on a de la chance d'avoir des excellents traducteurs, notamment sur 86 et sur Berserk of Gluttony. Je salue Yukio Rotter, qui est le traducteur de ces deux titres, qui fait de l'excellent travail, et qui est une machine de guerre, que j'appelle la Machina.
Okay.
Et il est très très bon, et il mérite plus de reconnaissance et plus de boulot aussi, même s'il est déjà blindé de boulot partout dans le monde de la traduction. Il est un peu trop blindé déjà.
Ouais. Il doit y en avoir de plus en plus, non, des traducteurs, ou en tout cas des gens qui veulent se dédier à la traduction, vu la popularité du japonais et tout. Je pense qu'il y a, par rapport à l'époque, je pense qu'il y a beaucoup plus de potentiels traducteurs. Après, des bons, ça c'est autre chose.
Je pense qu'en effet, il va y avoir beaucoup plus de traducteurs, déjà parce que on en revient 10 ans en arrière, le manga, c'était pas ça. Hein. C'était le truc du loser. Ouais, hein. Ouais. Aujourd'hui, c'est le truc du winner. Donc forcément, ça va c'est jouer. Ça. Et c'est, ça va jouer aussi parce que ben, tu te retrouves avec, hein, à l'époque... Lire ou traduire du manga, c'était pas ouf. Aujourd'hui, maintenant, c'est le must. Donc forcément, bah, ça va provoquer des vocations. Et aujourd'hui, t'as aussi toute la, bah, les diffusions, la diffusion qui est beaucoup plus importante. T'as les librairies SP, etc. Je veux dire, à l'époque, c'était pas ça. Aujourd'hui, t'as les gens qui vont vieillir. Ils vont avoir des enfants, ils vont avoir ça. Ils n'auront plus les mêmes. Les mêmes a priori qu'ils avaient à l'époque, comme pour le jeu vidéo, hein, c'est la même chose. Hein,
c'est ça. Et moi, c'est vrai que je prends toujours cet exemple-là du marché du livre, c'est que il y a 15-20 ans en arrière, moi j'avais connu une des premières boutiques SP manga sur La Rochelle, et elle n'a pas tenu. Elle n'a pas tenu parce que c'était pas viable. Donc ils ont rapatrié les mangas, ils ont voulu déporter en fait la partie manga dans un autre magasin. Ça a planté et forcément après ils ont ramené le manga dans la boutique. Alors que là aujourd'hui, un mec qui s'ouvre et qui se spécialise dans les mangas, dans les figurines, tout ça, cartonne. Ouais. Et ça marche bien. Ça marche bien. Après, il faut bien choisir l'endroit, etc. Mais aujourd'hui, c'est devenu un vrai filon qui est aussi porté par tout l'écosystème qui va autour. Et puis voilà. Mais c'est vrai que aujourd'hui, je pense qu'il y a plus de gens qui lisent de mangas qui n'en lisent pas. Tu vois, c'est alors qu'on avait plutôt un rapport de force un peu inversé il y a quelques années, quoi.
Oui, les chiffres, ils étaient sortis. Hein. C'est un livre sur deux, c'est un manga, je crois. Hein. Quand on dit livre de manière générale, genre les romans, etc.
Je sais pas, c'est pas un sur trois, même plutôt, non ?
C'est un sur deux. Le livre scolaire, genre. Peut-être. Je sais pas, en tout cas, il y a eu une hausse de 160%, je crois, entre 2021 et 2022.
Bon, bah,
basse culture un peu aidée, hein, mais il y a eu une vraie dynamique depuis. Certains le diront mieux que moi, mais il y a eu des hausses énormes à ce niveau-là. Et ça se voit, ça se sent. La honte a changé de camp, comme on dit.
Ouais.
C'est ça. Bon, bah, écoute, super. Et ben, bah, écoute, si vous le voulez bien, on va avancer un petit peu parce que le temps tourne, mine de rien. On va se lancer dans l'œuvre du jour. Donc, je vais quand même rappeler parce qu'on a fait, quand même une heure d'émission, un peu de. On a discuté avec toi et c'était super intéressant. D'ailleurs, on te remercie d'ailleurs pour toutes ces bonnes réponses que tu nous as données. J'espère en tout cas que vous auditeurs, ça vous en aura donné un peu plus aussi sur le métier de maison d'édition.
Désolé de digresser. Désolé de digresser.
Non, mais au contraire. Alors, tu sais que nous, on est les champions de la digression chez nous. On aime beaucoup digresser, on est plutôt sur un échange un peu naturel, et voilà, on espère en tout cas que les auditeurs aussi, ça,
ils sont habitués.
Ouais, voilà. Ouais. Mais en tout cas, pour ceux qui, ça serait le premier épisode, on va rapidement rappeler le concept. L'idée, c'est quoi ? C'est qu'en fait, on prend ce prétexte de découvrir un premier chapitre d'un manga pour justement ben voilà, le décrypter, échanger, et puis derrière, ben voilà, de se donner un peu tout ce qu'on peut avoir derrière ce premier chapitre, et puis vous donner après derrière une idée un peu générale sur le manga. Et donc aujourd'hui, ben voilà, on a choisi une œuvre de ton catalogue. On est parti plutôt sur l'axe manga, même si on verra, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a aussi un light novel. Mais en tout cas, aujourd'hui, ouais, on a décidé de vous parler de Berserk of Gluttony. C'est là que je laisse la main à Val. Il va reprendre la main. Oui. Mais n'hésite pas, mon cher Aurélien, à reprendre la main de temps en temps pour nous apporter un petit peu de choses en fonction de là où on est, dans ce que t'explique Val sur ce qu'il a pu noter, en tout cas, sur le manga.
Là, je suis en train de présenter une œuvre de ton catalogue, donc j'ai un peu la pression parce qu'il faut faire
non,
ça.
Non, mais
bien,
je vais faire le grammaire nazi derrière qui dit « Ah, non, c'est pas tout à fait ça, monsieur !»
Je t'en prie. Ouais, J'essaie de faire au mieux. Donc du coup, Berserk of Gluttony, donc c'est une histoire très importante de Ichiki, voilà, pas facile, et non. Le manga est dessiné par Daisuke Takino, et si je me trompe pas, les dessins du light novel ont été faits par Fame, c'est ça, les designs originaux, du coup. Qui ont été repris dans le manga.
Exactement. En fait, Fame est l'illustrateur du light novel. Ichiki est le scénariste, celui qui écrit l'histoire.
Le scénariste, exactement. Donc c'est un shonen, pur shonen. À mon humble avis, de ce que j'en ai lu.
Je te laisse faire. Vas-y.
Pour moi, c'est un pur shonen d'heroic fantasy. Et je pense que.
La question, c'est, je pense, est-ce que c'est pré-publié dans un magazine de shonen ? C'est peut-être là-dessus où il y a le petit.
C'est une bonne question, sachant que c'est micro-magazine l'ayant droit, et que donc du coup, il n'y a pas de classification.
voilà, elle était là, la petite subtilité. Okay. Parce qu'aujourd'hui, ça fait beaucoup débat. On en a discuté en off avec Val, c'est qu'en fait, on a tendance, nous, à mettre des classifications de shonen, shoujo, etc., comme du genre. Mais en fait, c'est souvent étiqueté d'abord, avant tout, par le magazine de prépublication. Donc après, il y a des thématiques récurrentes dans le shonen, dans le shoujo, etc. Bon, nous, on l'a mis shonen parce qu'on, des fois aussi, on aime bien en France mettre ça dans une case.
Je crois que je vous intimide parce que vous essayez de vous justifier, c'est pas grave. Hein. Vous avez le droit de dire que c'est des shonen.
C'est pas un gros mot, mais c'est vrai qu'en ce moment, il y a des. On a la sphère.
Je suis tout
un
à
peu,
fait dans cette optique-là. Je suis RS. Tout à fait dans cette optique-là. Pour moi, la classification shonen, shoujo, seinen est donc une classification par cible. Et cette classification par cible est plus adaptée par rapport à une classification par genre. Pourquoi ? Je digresse encore. Allez, c'est parti, on digresse. Pourquoi la classification par cible est inadaptée par rapport à une classification par genre ? Déjà, premièrement, parce que cette classification par cible va cloisonner. C'est une classification pour des magazines. Cette classification pour un magazine, on ne classifie pas de la même manière un magazine d'un livre. Un magazine, ton but, c'est de toucher un public déterminé. Des garçons, des filles, des femmes, des adultes. Je prends l'exemple, Playboy, sa cible, c'est les hommes.
Les hommes, évidemment.
Voilà, Vogue, c'est un magazine qui cible les femmes. People, c'est un magazine qui cible les fous.
les
voyeurs, exactement. En fait, tu as une cible déterminée à chaque fois. Et évidemment, cette cible, elle est. Pourquoi les magazines ciblent une cible et pas des genres ? Parce que dans leurs magazines, ils ont plein de genres différents. Et c'est normal de ce fait. Mais une fois que ça arrive en librairie au Japon, ça se retransforme en genre. C'est classé en genre, voire même par éditeur au Japon. Tu vois, on va ranger par Kadokawa, par Shueisha, par Action, par Aventure, ce genre de choses. Mais on va pas classer par garçon, jeune fille, etc. Tu vois, ça, c'est uniquement dans les magazines. Et donc, de ce fait, déjà, il n'y a pas de raison de garder cette classification quand on arrive en France. Tu vois ?
C'est vrai.
Mais pourtant elle est là. Elle est là parce qu'en fait, il y a une mauvaise traduction de ce terme en France. Voilà, on a transformé ce qui était une cible éditoriale par facilité parce qu'on a vu que c'était c'est Shonen Magazine, etc. Donc on va l'appeler Shonen au lieu de le classer dans des rayons comme ce qui se fait en BD traditionnel. Voilà. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que en France, le rayon Shonen aujourd'hui, il est rempli de choses qui ne sont pas issues de Shonen. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, 70% des ventes de manga sont dans le rayon shonen. Donc un éditeur, quand il va arriver, il va dire « Ah tiens, j'ai un magnifique shoujo, mais je vais pas le ranger en shoujo, parce que sinon je vais faire 10% des ventes, alors je vais le ranger dans shonen, comme ça je suis sûr de vendre. » Ce titre, il s'appelle Black Butler. c'est tout à fait ça. Et ça arrive, il y en a plein des comme ça.
C'est exactement
Tiens, ça. Et c'est pareil avec le seinen. Des choses qui sont en seinen sont classées en shonen. Des choses qui sont en shonen sont classées en seinen. Kaguya-sama, voire même en shoujo dans certains cas. Kaguya-sama, Love is War, par exemple, dans 90% des cas dans les librairies, tu le retrouves en shoujo. Pourquoi ? Il a été publié dans un magazine de shonen. Mais pourtant, ça parle d'une romance.
Ouais, après,
Donc voilà, c'est toujours.
Après, il y a aussi une idée de classer les âges aussi, toi, par exemple, pour se dire est-ce que c'est violent, est-ce que c'est vraiment adapté
aussi,
parce que nous, on a tendance à mettre les shonen,
toujours le cas. Parce qu'aujourd'hui, un shonen, et je digresse, je suis désolé, je m'attarde sur cette digression. Ça va aujourd'hui de 6 ans, en France, je parle bien en France. En France, ça va de 6 ans à 18 ans. Ça veut dire que Chi mon chaton est classé en shonen et il est dans le même cas de figure que Shunsoman. Est-ce que tu trouves que c'est normal? Non, pas trop. Oui, tout à fait. Oui.
C'est un shonen.
Tout à fait. Oui. Et je dirais même plus loin, Chimon Chaton est dans un magazine seinen, je rappelle. Donc encore pire. Mais dans les, ce genre de show, et pourtant c'est un truc tout mignon, etc. Et pourtant c'est décisant. Donc tu vois, la classification par cible, elle a des problèmes. Et au Japon, il y a plusieurs catégories. Tu as les kodomo, tu as le shonen, tu as le shoujo, tu as le seinen, etc. qui sont des cibles de magazines. Mais tu as le kodomo, c'est de 5 à 10 ans. Aujourd'hui en France, le shonen va de 6 à 18 ans. Donc ouais, même donc, sur la protection des mineurs, c'est... l'argument protection des mineurs, etc., la protection des plus jeunes, etc., même ça, on n'est pas bon. Voilà. Donc,
il reprend mon petit val.
Non, mais c'est intéressant. Moi, je retiens de tout ça que...
mais t'as le droit de le dire.
La petite anecdote du... c'est un shoujo, mais je vais l'appeler shonen pour plus le vendre. Ça, c'est ce qui me...
Mais ça,
c'est, que je retiens.
Ça arrive tout le temps.
C'est une réalité. Hein.
Bah, oui.
C'est une réalité.
Quand on s'en rend compte, ouais, c'est clair. Par contre, le genre heroic fantasy,
juste,
je pense que
là, t'es juste, c'est de l'heroic fantasy, tout à fait.
Ah ouais. Ouais, clairement. Donc, du coup, c'est. Nous, on va vous parler du manga. Le manga est sorti, le premier tome est sorti en octobre 2021. Actuellement, on a 3 tomes, dont le dernier tome qui est sorti en février dernier, donc février 2023, pour dater ça. On est sur 9 tomes parus au Japon aujourd'hui. Donc apparaître en France plus tard. Évidemment.
D'ailleurs, je pense qu'au moment où cet épisode sortira, le 4e tome sera déjà sorti. Hein. Je crois que c'est prévu pour mi-avril.
Il est prévu pour début mai.
Ah, début mai. Donc on sera la semaine prochaine, les gens. Voilà, parce que l'épisode est prévu pour fin du mois. Donc,
Fin du mois. Donc du coup, la suite du tome 3 sort en mai, donc dans les prochains jours. Et on a un animé de prévu.
Ça, c'est cool.
Paraît-il. Dans les cartons, un animé serait prévu pour cette année.
Voilà. Si on dit pas je pense qu'on peut prévoir pour fin d'année. Ça me paraît compliqué de le sortir avec un seul trailer en juillet. Donc, je pense qu'on l'aura en fin d'année.
Okay. D'ailleurs, c'est un vrai coup de boost pour vous, ça. Hein. C'est, si l'animé plaît, forcément, vous allez le ressentir sur les ventes, puisque en France, on le dit très souvent, l'animé a un effet booster pour le manga. En fait.
J'espère, puisque là, en l'occurrence, on a le manga et le light novel sur le coup. Donc, s'il n'y a pas de boost, on est embêté. Non, je plaisante. Non, généralement, ça. On en a parlé avec notre diffuseur. Généralement, quand un animé. Ça peut faire des fois 2, fois 3, fois 4 sur les ventes.
Ah oui, donc pas négligeable. Pas négligeable.
J'ai une question. Est-ce que c'est le premier animé de votre catalogue? Enfin, du coup, est-ce que c'est...
C'est le deuxième. C'est le deuxième. Puisqu'on a eu 86, mais qui était déjà en animé.
Voilà. Ah oui, bah du coup. Ouais. Mais 86, qui était, quand vous l'avez récupéré, était
exactement,
déjà adapté en animé, c'est ça? Là, ça va être le premier animé produit pour lequel vous avez une
exactement.
Franchise...
C'est le premier où on aura d'abord sorti dans l'ordre, c'est-à-dire light novel, manga et animé, comme au Japon. Donc, on croise les doigts pour que ça soit un succès qui suit la chronologie. Et
réussite,
ça,
ouais.
Ça a réussi sur ça. Mais très bon titre.
On a un bon
très
sentiment.
Très bon titre, Berserk of Gluttony, à mon sens. Enfin, c'est...
Ouais, pour de l'anime, je pense que ouais, il y a un beau potentiel, ouais.
On va en parler dans les refs de l'auteur et dans tout ce que ça peut. Moi, il y a un côté très jeu vidéo, hein, RPG, qui est assez obvious, on va dire. Mais pour le coup, je pense qu'en animé, ça peut avoir son petit effet, les petites features avec les caractéristiques du personnage qui évolue en temps réel. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus.
Ouais. Moi, je veux les bruitages des life points de Yu-Gi-Oh! quand il prend les caractéristiques. Voilà. Bon, ça, c'est les jokes. Pour ceux qui auront lu Berserk of Gluttony, vous comprendrez. Mais pour le coup, je vais vous pitcher. Je vais prendre le pitch de Mao. Je sais pas. Est-ce qu'il y a derrière la quatrième?
Ce qu'il y a derrière la quatrième.
Oui, c'est ça. Ouais, puis je l'ai pris sur votre site internet. Donc voilà.
Pas de plus.
Donc je vous pitch ça et puis on va faire ça une belle voix et tout, comme d'hab, quoi. Vous savez.
Mais sans stress, quoi, comme moi au début, quoi. Ouais, je sais pas, les gens l'auront pas entendu parce qu'on l'aura coupé au montage. Allez, toi. Voilà.
Alors, dans un monde où les compétences font tout, Fate Graphite a l'une des plus inutiles, la gloutonnerie. Un pouvoir qui agit comme une malédiction puisqu'elle lui procure une faim insatiable. Un jour, alors qu'il exerce son métier de garde de château, il se retrouve embarqué dans une embuscade et tue un voleur. Sa compétence s'active alors et dévore l'âme du malheureux. Désormais capable d'ajouter les statistiques de ses victimes aux siennes, Fate se lance dans une quête de puissance pour protéger celle qu'il aime. Mais tout pouvoir a un coût et la lutte pour ne pas sombrer dans la folie sera longue. Trois petits points. Voilà.
J'ai repris les trois petits points qui étaient sur le site.
Il faut faire le tin 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 tin. C'est important, ouais. C'est important.
Oui.
Tu sais ce qu'il te reste à faire, Val ? Tu vas le rajouter au montage, ça ?
Ouais, bah ouais, mais je suis pas très bon, moi, en bruitage et tout. C'est... j'ai des progrès à faire.
Ok, bah super. Eh bien, si vous voulez bien, on perd pas de temps. On va passer directement au pas à pas de l'œuvre. Et là, c'est intéressant parce que. Du coup, on a l'éditeur avec nous. On a toujours tendance un peu à s'attarder sur la couverture et de manière générale sur les couvertures. Alors là-dessus, est-ce que donc sur la couverture des tomes de Berserk of Uchronie, est-ce que du coup c'est Daisuke Takino qui fait les dessins ou est-ce que c'est
Fame ? Non, c'est Daisuke Takino qui fait bien le dessin.
Okay.
Fame, il fait juste une illustration hommage généralement à la fin. Et encore, même pas, si je dis pas de bêtises, il en a même pas fait pour le manga. Non, il reste exclusivement sur le light novel Fame. Mais il inspire, il conseille, on va dire, le Daisuke Takino sur les designs, sur le chara-design, certains trucs. Faut savoir que je trouve, c'est mon avis, c'est que l'auteur du manga et le light novel sont très fidèles. Le manga est très fidèle au light novel. C'est assez rare. C'est qu'il ne s'éloigne pas vraiment. Il est assez juste dans la façon dont il présente le titre, je trouve.
Ouais, c'est intéressant. Toi, tu as lu. Nous, on n'a pas lu. Enfin, on a une petite partie dans le tome 1.
C'est de l'anglais, d'ailleurs. Je trouve que c'était assez cool à lire. Moi, je l'ai lu.
Sur Grid. Très très intéressant. Mais toi, donc t'as lu le light novel, donc tu vas pouvoir nous confirmer.
Je confirme que un tome du light novel fait la moitié. Un tome du light novel fait deux mangas. Voilà. Les deux premiers tomes couvrent le premier tome du light novel. Donc c'est simple. Okay. On a 8 tomes de light novel. Pour l'instant, on est parti sur 16 tomes. Voilà.
Ah oui, le light novel est en cours de...
C'est la question que je me pose. On va dire que le tome 8 finit sur un truc en mode « Et il reviendra. » Et on ne sait pas si c'est vraiment la fin ou ou s'il va revenir le tome suivant, etc. Donc je suis un peu en mode « Ah d'accord, bon bah on attend, hein. » Ou pas.
On a un petit jeu de pronostic, nous, normalement, sur YPDLM, où on essaye de pronostiquer la durée de l'œuvre. Si ça va être une longue ou une courte série.
Ouais, bon, ça fera 20 tomes. Ouais, je pense que ça peut faire 20 tomes. En tout cas, c'est...
Ouais, j'aurais pas annoncé ça, moi. Mais du coup, maintenant.
Désolé, j'ai spoilé.
Non. Okay. Au niveau du format du manga, on est sur du format. C'est assez classique. Hein, selon les tailles de format. J'ai pas les tailles.
Alors, on est sur du 13-80. Sur du 13 x 18.
Donc, c'est assez classique. Ça fait une. On est sur du quoi, 160, 120 pages 160. 150 pages 160, 160, ouais. Voilà, c'est ça. Donc ça se met bien dans vos bibliothèques, hein. Et puis alors nous pour info, on a sur le matériel, on a lu sur Mangayu avec Val. Donc pareil, je trouve qu'en termes de tout ce qui est scan légal, hein, mais scan plutôt bien reproduit, de super qualité, et en tout cas, enfin, le plaisir de lecture est quand même assez sympa et assez fluide aussi sur la tablette. Donc vous aurez le choix comme ça, soit le papier, soit la tablette, il y a les deux. Et bien écoutez, si vous voulez bien, on se lance. Alors on démarre le tome. Donc avant qu'on se lance vraiment dans le premier chapitre, on a une préface. On assiste en fait à un massacre avec une sorte de voix off qui dit mange ça à plusieurs reprises, pour finir sur un plan de nuit où on voit un personnage mystérieux affublé d'un masque et d'une épée. On ne sait pas encore qui c'est. Et ça se conclut sur « Dévore tous nos ennemis ». Moi, clairement, je trouve que c'est déjà une entrée en matière assez dynamique. Ça bouge bien. Et puis, un découpage ce découpage en diagonale pour les cases, hein, ça fait penser un petit peu à ce qu'on peut retrouver aussi dans le monde du comics, je trouve. Je trouve qu'on a de plus en plus des auteurs de manga qui s'inspirent aussi du découpage comics. Et clairement, ça fait le taf. Je trouve qu'il y a un bel ancrage sur ces pages-là. Ça donne envie, en tout cas, d'aller voir la suite. Est-ce que tu veux dire quelque chose, Val, toi, là-dessus ?
Non, t'es totalement juste. Les diagonales, en plus, c'est référence à l'épée qu'il a et au coup de slash. parce qu'il y a les onomatopées slash, oui. Donc au fait qu'il découpe en fait les ennemis et aussi les cases. Et ouais, trop fort.
Est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus, Aurélien?
Je vous laisse continuer. Moi, je vais juste rajouter peut-être que sur ce tome, enfin sur cette série et sur les séries Mao en général, on traduit intégralement toutes les onomatopées, tous les SFX.
Oui, j'ai vu.
Et que du coup, ça donne une facile.
Ziut.
C'est assez sympa.
Ziut. Ouais, ça donne.
Enfin, ça, c'est un travail que j'aime beaucoup faire, qu'on aime beaucoup faire. Et en l'occurrence, c'est assez sympa de voir, d'essayer de reproduire l'onomatopée japonaise en onomatopée française. C'est souvent un. Tout, on peut pas te faire partout, mais quand on peut le faire, c'est toujours sympa. Et sur Berserk of Lutonia, on le fait, notamment.
Non, mais c'est vrai que c'est assez sympa parce qu'on n'est pas habitué à ce genre de traduction. Et c'est vrai que bon, bah, c'est vraiment la petite touche particulière. Donc là, on rentre vraiment dans le premier chapitre, donc qui s'appelle
Les déshérités.
On n'a pas dit, mais il fait 22 pages, donc c'est un chapitre un peu plus court de ce qu'on est habitué à voir dans les classiques, puisqu'on est plutôt en général entre 40 et 60 pages. Donc là, on démarre en fait, on va avoir l'introduction de notre personnage de Fate, où on va nous présenter sa compétence qui qualifie de naze, donc la compétence de gloutonnerie, et c'est vrai que c'est un petit peu la risée un petit peu de son village. D'ailleurs, moi, je trouve que la ville fortifiée, pour le coup, me fait beaucoup penser au strates qu'on avait aussi dans, on parlait tout à l'heure de l'attaque des titans. Ça fait penser aussi un peu à l'attaque des titans, je trouve, la cité qui est protégée, qui a l'air d'être imprenable. Et donc, ouais, c'est assez. Là, on voit qu'on rentre tout de suite un peu dans l'univers vraiment purement heroic fantasy avec ce côté. Chaque personnage a une compétence. Donc, lui, bon, voilà, il a cette compétence de la gloutonnerie. Et c'est vrai qu'a priori, bah, c'est quelque chose de plutôt naze. Plutôt
avoir faim, comme dit le héros. C'est nul comme compétence.
Il a tout dans la dalle.
C'est ça.
Ouais, et puis il est quand même plutôt, on va dire qu'il est un peu maltraité par ses congénères, puisqu'il y a deux types de. Il y a les chevaliers. Qui ont cette stature, et lui, forcément, il est méprisé complètement par les chevaliers. En tout cas, voilà, ça nous pose bien le personnage, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, le cadre est bien posé, et ça nous permet déjà de se dire, bon, qu'est-ce qui va nous devenir, ce petit gars-là?
Exactement. Et puis ça sera expliqué plus tard aussi pourquoi déjà le chapitre s'appelle Les Déshérités, et la différence entre ces chevaliers-là qui bolossent, on peut le dire,
Fate, complètement. Quoi,
complètement, et Fate qui, lui, a sa compétence naze, puisque, spoiler, elle n'est pas naze du tout. Hein.
Elle est même plutôt pétée, mais on va se le garder pour après. On continue. Donc là, du coup, on a l'intervention de Demoiselle Roxy. Et là, donc, ce qui est bien, c'est qu'on a nos deux personnages qui sont introduits et qui justement caractérisent les agresseurs, qui sont donc les saints chevaliers, puisque elle aussi est une, je sais pas si on peut l'appeler une sainte chevalier, je sais pas si on l'appelle comme ça, mais en tout cas, elle fait partie des saints chevaliers.
C'est un saint chevalier, même si c'est une femme, c'est un titre qui ne se féminise pas.
D'accord, ouais. Et écoute, c'est bon à savoir, on peut pas tout féminiser, malheureusement, n'en déplaise à certaines.
C'est compliqué, c'est toujours une question tendue à ce niveau-là, la question de la féminisation. Moi, nous-mêmes, on sait pas toujours s'il faut féminiser ou pas, on est en mode on est progressiste, pas progressiste, ouais, mais c'est une faute et on peut nous le reprocher. Enfin bref, ce genre de débat, c'est toujours un peu ça, mais tu peux le dire comme tu veux.
Oui, non, mais complètement. Mais d'ailleurs, j'ai appris que le terme sage-femme ne pouvait pas se féminiser en sage-homme. Puisque il y a un film qui est sorti, il l'explique justement, on digresse, hein, mais c'est le sage pour une femme qui va accoucher. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas appeler ça un sage homme. Donc le sage, en fait, c'est les dents qui aident à accoucher une femme. Donc c'est le sage pour la femme. Voilà, bref. C'était bonjour,
merci,
tartine ta culture.
Merci, professeur.
Professeur Conditirement. Donc voilà, j'ai placé, vous coucherez mon con ce soir. Merci, Sam. Demoiselle Roxy justement intervient pour aider Fate et justement elle est là pour lui dire que justement ce comportement là n'est pas acceptable et que si ça reprend il faut absolument qu'elle vienne lui dire, parce qu'elle est là justement pour faire respecter l'équité. On sent qu'elle est quand même un peu à part, hein. Je sais pas ce que tu t'en penses, Val, là-dessus.
Ouais. Bah, clairement, les autres sont positionnés comme étant des antagonistes ou en tout cas pas des gens très cool avec le héros. Et elle, pour le coup, en plus, dans son chara-design, on comprend que ça peut très vite devenir une alliée ou voire même le love interest du personnage principal. Puis bon, c'est présenté dans la quatrième de coupe, donc on imagine que ça va être la,
oui,
la dame.
Il n'y a pas grand suspense là-dessus.
Puis elle est mignonne, quoi. Déjà, elle a une tenue badass au niveau chevalier et tout. Elle en jette. Et en plus de ça, moi j'aime bien son chara-design. Donc voilà.
Ouais, mais non, c'est. D'ailleurs, est-ce que c'est son premier manga? Ah, son premier dessin d'auteur?
Oui,
c'est
son premier manga.
Ok.
Vous revenez sur les chara-design, on a beaucoup de ces gens qui nous disent, ça ressemble quand même beaucoup à Kirito et Asuna dans SAO, on nous le dit souvent.
Alors je n'ai pas lu SAO, donc je n'ai pas de point de comparaison.
Même s'il y a une petite ressemblance, on va dire, purement fortuite, à part dire c'est le Japon et tout ce que je peux dire sur ça, mais ils arrivent à s'émanciper assez vite dans la suite de l'histoire de cet archétype de personnage, on arrive à s'en détacher et malgré tout, c'est un peu, à mon sens, la force du titre de Berserk of Luton, c'est arriver à faire quelque chose de bien avec des vieux pots. Tu vois ce que je veux dire, c'est, on a l'impression d'avoir déjà vu un peu certaines choses. Le chara-design en fait partie de Fate et de Roxy. Mais ils arrivent à s'en émanciper et à agrandir. Et du coup, en fait, ça c'est des représentations qu'on est familier et qu'on accepte. Le personnage de Roxy, par exemple, est un personnage qu'on apprécie au fur et à mesure de l'histoire assez facilement.
Oui. Son personnage est tough. Hein. Ouais, complètement. Ouais. Ouais, complètement. Alors, 22 pages, ça passe vite. Hein. On a le rythme quand même qui est assez soutenu sur ce premier chapitre, puisqu'on a on passe à la scène du bar où on en apprend un peu plus sur le métier de Fate. On apprend en fait qu'il est garde. Il est garde au niveau des entrées. Il a un travail de garde et du coup il discute avec le serveur du bar où justement. Il faut pas qu'il lâche, que grosso modo il faut qu'il arrive à garder la tête haute parce que sinon c'est un coup à mal finir.
Et finir comme le précédent qui s'est fait. Apparemment c'est d'un commun accord, tous les gardes, enfin tous les gens au poste qu'occupe Fate, ils ont tous fini.
Ils sont tous morts. Hein. Ils le disent hein, dans le light novel. Hein. C'est pas dit dans le manga, c'est plutôt en mode il s'est un peu surmené. Oh là là. Non, il est mort. Il est mort. Ouais. Crevé, il s'est suicidé.
Mais c'est vrai que alors je sais pas comment est fait le light novel et on en parlera après sur le côté un peu décryptage parce que c'est intéressant de voir sur la globalité de l'œuvre. Là, on voit comme une particularité du manga, c'est que les transitions sont très très directes. Tu vois, c'est pas négatif quand je dis ça, c'est qu'on passe vraiment d'une les ellipses. Ça passe assez vite d'un sujet à un autre. Alors ça rend la lecture fluide. Je sais pas comment c'est fait dans le light novel, mais c'est vrai qu'on se le gardera pour après. Mais on passe assez vite de il boit son verre à bim, on le retrouve dans la rue en train de faire sa patrouille. Et c'est là que va prendre tout l'intérêt du concept de ce manga. C'est que il y a des voleurs qui vont rentrer dans le château. Il veut donc pour aller prévenir du coup Roxy. Et en même temps qu'il l'a prévenu, en fait, il revient sur ses pas, sauf qu'en fait, il entend du bruit. Il s'approche de ce bruit-là. Et là, il se trouve nez à nez face à un voleur qui a l'air d'être déjà salement amoché. On pense qu'il s'est battu déjà auparavant.
Il
lui manque un bras, on peut le dire. Ouais, il a le bras qui dégouline un peu. Et du coup, il se décide de s'opposer et il finit par le tuer. Voilà. Et le personnage tombe au sol. Et là, qu'est-ce qui se passe? On a une petite voix off, d'ailleurs, c'est intéressant. Je sais pas qui lui parle, mais en tout cas, c'est un peu comme dans un mode jeu vidéo. Moi, j'imagine, tu sais, la petite voix de la compétence de gloutonnerie activée. Tu vois,
la voix féminine. Moi, j'ai la même voix que toi, je pense.
La même voix féminine, tu vois, caractéristique modifiée, compétence gagnée, évaluation, télépathie. Et puis, voilà, il récupère la télépathie qui va être quand même bien utile pour la suite. Et là, en fait, le premier chapitre se clôture sur ça. C'est vrai que c'est assez court, mais on va quand même après, on va un petit peu aller un peu plus loin dans le décryptage, parce qu'on va pas forcément vous spoiler l'œuvre, mais on va parler de certains événements, de certains personnages, de certains objets clés
qui vont permettre justement de vous donner envie d'aller découvrir Berserk of Utoni. Mais en tout cas, ouais, déjà, on se dit, il a une compétence sacrément stylée, quoi. C'est pas juste manger, quoi. Dès qu'il tue quelqu'un, eh ben, il récupère en fait toutes ses statistiques, que ce soit dans les points de compétence ou que ce soit dans les capacités un peu spéciales. Et là, on est typiquement dans du pur jeu vidéo. Moi, c'est le premier truc que j'ai pensé. J'ai dit, ok, ça, on est dans de la, on est dans du RPG, MMORPG, tout ça. C'est vraiment typiquement ce genre-là.
Ouais. 100%. Ben, moi, c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais il est cheaté, en fait. Il est complètement cheaté. C'est un tout droit pour lui. Du coup, pour parler en jargon de jeux vidéo, c'est tout droit, puisqu'en fait, dès qu'il tue un ennemi, il accumule ses stats.
Il n'est pas trop farmé, lui, hein, pour ceux qui jouent un peu aux jeux vidéo.
Les justement, non, c'est l'inverse, il doit farmer, lui.
Justement, lui, il faut qu'il farme, justement.
Il faut qu'il farme. Oui, il y a d'ailleurs une grosse séance de farm à un moment donné qui est assez anthologique. Ouais, bah,
il y en a même plusieurs séances de farm et parce que bah du coup en plus de farmer pour devenir puissant, on va apprendre plus tard que c'est surtout sa compétence de gloutonnerie qui l'oblige à farmer parce qu'en fait il a faim, on l'a vu au tout début du premier chapitre, il a constamment faim. Et le problème, c'est que plus il va se nourrir et plus il va avoir faim. C'est
un cercle vicieux, c'est interminable.
Une faim insatiable. Donc, vous imaginez bien, si on vous fait le topo, on va faire des maths un peu. Il a tout le temps faim, donc il est obligé de se nourrir. S'il se nourrit, il gagne les caractéristiques des gens de qui il se nourrit, qui tue. Donc, du coup, théoriquement, c'est un cercle infini où il peut faire que prendre de la puissance quoi, et devenir complètement cheaté.
Il est obligé de taper de plus en plus haut pour essayer de satisfaire sa faim.
De différencier aussi les proies aussi, il y a un truc, c'est important.
Parce qu'à force de manger, toujours la même chose, au bout d'un moment, tu dis j'ai envie de manger autre chose. Il est obligé de passer à un truc un peu plus élevé à chaque fois. Et moi, ce que j'aime beaucoup, alors je me permets d'intervenir, moi, ce que j'aime beaucoup dans cette œuvre, c'est surtout la partie où en gros, il doit. En fait, il y a une fin. Il y a une fin tragique qui peut potentiellement l'attendre. C'est-à-dire que ça ne peut que mal finir, cette histoire. Plus il dévore, plus il a faim. S'il ne dévore pas assez, il devient fou. Mais au bout d'un moment, la faim, il n'arrivera plus à la combler. Et à un moment, tu vas devoir taper sur des gens. Tu vas taper. Et ce plus grande peur, c'est de dire... en fait, je vais devenir complètement fou, un berserk, d'où le titre, Berserk of Utoni, qui va me faire taper tout le monde, qui va me faire taper contre la Roxy, je vais devoir tuer ma Roxy, je vais devoir tuer mes amis et tout le monde, tu vois.
C'est pas dit dans le manga, mais on comprend très vite au moment où c'est expliqué qu'en fait, il a peur de justement blesser les gens qu'il aime.
Ah, c'est pas dit, en effet.
C'est pas dit, mais c'est très clair, ouais. On le comprend. Et du coup, en fait, de suite, son objectif, il est très clair aussi. Mais en même temps, c'est pas aussi simple parce que il est obligé de se nourrir. On peut en parler là maintenant. Et moi, je trouve que c'est hyper intéressant, d'autant plus qu'il y a d'autres petits leviers qui sont mis en place pour pas le nerfer, mais en tout cas faire évoluer. Parce qu'en fait, si on en est, si on en reste à ce stade-là, on se dit il va constamment prendre de la puissance, et puis il va très vite arriver à des niveaux de puissance démentiels. Et il y a des choses qui sont hyper intéressantes et qui vont arriver, notamment sa relation avec l'arme dont il se sert. Pour tuer ses adversaires et qui va lui permettre de justement un petit peu être un peu nerfé, mais en même temps
il y a aussi vraiment cette relation aussi que j'aime bien avec justement son arme qui s'appelle Grid. Pour le coup, c'est pas trop du spoil vu que ça arrive très rapidement dans l'histoire.
Ça arrive très rapidement.
C'est au chapitre 2,
tout à fait. Et clairement, ce personnage-là est à mourir de rire. Moi, j'ai eu les meilleurs fous rires en traduisant. J'ai eu des gros fous rires en traduisant ce personnage-là, parce que c'est Grid, c'est l'avidité même, c'est l'égocentrisme. Même si c'est pas plus la fierté que l'avidité, mais le mec est vraiment complètement barge dans sa façon de fonctionner. Et c'est toujours genre, ah, mais t'es qu'un pauvre et tout. genre, des fois, il y a des choses, genre, et c'est devenu un running gag au boulot. Et genre, à chaque fois, il fait une phrase, c'était, ah, t'es qu'un pauvre, sale pauvre. Et du coup, maintenant, c'est devenu à chaque fois que c'est, ah, sale pauvre. C'est pauvre d'esprit, pauvre de corps. Ah là là.
Non, mais elle est intéressante, leur relation. Je trouve que
tout en étant une relation maître-élève.
C'est pas souvent qu'on a. Ouais, c'est ça, exactement. Et je trouve qu'il lui apporte beaucoup, lui, pour améliorer sa façon de combattre. Ce qui est sympa, parce qu'en fait, on arrive toujours à avoir des sous-tiroirs, puisque l'arme, on va apprendre qu'elle évolue, qu'elle a différentes formes. Donc, c'est toujours ce rappel aux jeux vidéo, je trouve, qui est vraiment hyper intéressante. Et c'est ce que je disais à Val, on en discutait en off. Moi, je suis moins maintenant parce que j'ai plus le temps, mais j'étais un gros joueur de RPG, j'étais un gros joueur de toutes les séries des Final Fantasy, etc. Et ça me rappelait ça, en fait, parce qu'en fait, tu passes ton temps à farmer, tu peux faire évoluer tes armes, tu peux leur amener des matériaux supplémentaires pour qu'elles soient plus fortes. Et il y a tout ce côté très, très, je pense que le mec qui est déjà très fan de MMORPG, RPG, ça, typiquement, ça va être le genre de lecture, il va comprendre tout de suite les refs et il va être dedans, quoi.
Les codes.
Il a les codes. Et c'est bien foutu parce qu'en fait, moi, j'avais un petit peu peur en le lisant, pour être très honnête, qu'on se perde, en fait, avec le niveau trop élevé des points de vie, des points d'attaque, etc. Parce qu'on monte assez vite dans les dizaines de milliers, dans les centaines de milliers.
C'est vrai que les unités sont impressionnantes au début, surtout quand on a les codes du jeu vidéo. On
et
se
tu me
bah,
dis,
bah, attends, c'est beaucoup, c'est là, ça. Non, quand même.
Là, on est à l'équivalent d'une tome 3. Je me dis, qu'est-ce que ça va être quand on va être au tome 8, quoi. Tu vois, je me dis, on va avoir des trucs en millions, quoi, tu vois, en millions d'XP.
Je spoilerai pas. Mais il y a un vrai cap. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que, en fait, dès le. Donc, ça sera le tome 6 du manga, je pense, mais dès le tome 3 du light novel, il y a un moment où, justement, il y a un cap, au moment où tu passes le million.
Il va être limité par son level.
Bah non, il est 100%. Level 1, il peut pas.
Mais c'est ce que je te dis, au bout d'un moment, je pense qu'il va devoir passer des niveaux pour pouvoir débloquer le palier. Je
pas
vois
lui,
comme ça.
Pas
parce
lui, il peut pas.
Non, pas lui.
Pas.
Ah.
Justement, mais il y a un moment où il va passer un palier, je ne spoilerai pas, et ça va être expliqué tout au long du récit, mais il y a un vrai palier du 999999999, tu vois, ce palier-là qui est...
Oui, bah, qui est une rêve aussi, pareil.
Au... En plus, quoi.
Non, mais en fait, pour moi, je sais que, alors, je vais peut-être me faire hurler dessus, mais moi, je suis plutôt un joueur de FF8 que de FF7, pour ceux qui ont, voilà, je vais commencer par celui-là. Et à un moment donné, tu te bats contre Pampa, qui est une espèce de, c'est une GeForce que tu peux en fait faire venir chez toi. Et quand t'es stuffé au max, ce mec-là, tu lui fous des patates à 999999. Tu peux pas mettre un million, mais tu lui mets des 999999. Et il a des millions et des millions de PV, ce mec-là. Tu passes ton temps, tu le frappes pendant, c'est un sac à PV pas possible. Et je me dis, à un moment donné, on va en arriver là.
Et c'est ça, en fait, c'est que les ennemis évoluent avec le personnage, ce qui fait que on est jamais... En fait, il y a toujours de l'enjeu. Et ça, c'est toujours le problématique avec des personnages un peu overcheatés, c'est que soit tu augmentes toujours, on va dire, le niveau, soit tu... downgrade le personnage. Et là, il y a un équilibre qui fait que quand il monte, il doit redescendre. Enfin, il redescend. Quand il arrive au max, il peut pas forcément. Il doit trouver un moyen de surpasser ça, mais il redescend après. Enfin, tu vois, il y a toujours un truc comme ça qui lui permet de rester pas tout le temps cheaté et d'avoir des enjeux dans le manga. Sinon, au bout d'un moment, tu fais il va encore me sortir un Deus Ex Machina à la fin de la série. En mode, j'ai ma technique comme ça que je vais modifier et tout et qui va me permettre de sortir. De ça. Et c'est là où, pour moi, il y a une différence avec d'autres titres qui ont un peu ce côté dévoré, tu sais, dévorer des compétences, etc., comme Slime, où il y a le personnage redescend, le personnage a un enjeu, tu vois, il y a un contre-coup, et c'est sympa. Moi, j'ai, en tant que lecteur, en tant qu'éditeur, je suis le premier convaincu de ce que j'édite, mais en tant que lecteur, j'ai beaucoup apprécié cette partie-là, et c'est pour ça qu'on a voulu prendre des droits sur ça.
D'autant plus que il y a un lore qui est mis en place de manière assez. Moi, je suis à jour sur aujourd'hui ce qui est sorti sur les trois premiers tomes, de manière assez, à mon sens, assez lente. Mais on sent qu'il y a des pistes des débuts de chemin qui sont amenés sur notamment la partie l'arme s'appelle Grid, lui c'est sa compétence c'est la gloutonnerie, on a un personnage qui arrivera un peu plus tard qui apparemment est lié à la colère, donc on a un truc autour des péchés capitaux, et en plus de ça on nous introduit des maisons, des familles importantes dans la société de Berserk of Gluttony, et donc on imagine que ces gens-là ont des capacités qui sont particulières, les chevaliers saints, etc. Et donc on imagine que le lore de l'univers peut être hyper vaste et on peut trouver vraiment beaucoup de choses. Donc
ouais, c'est infini,
mais tout en restant très simple. Ouais. Je te prends. Alors là, pour le coup, je vais prendre l'exemple du light novel. Tu sens que c'est un univers qui évolue dans l'univers, parce que par exemple, il y a un moment, il y a ça nous a fait beaucoup. C'était une belle prise de tête à un moment. Mais à un moment, dans le tome 2 de Berserk of Gluttony, le light novel, il y a une ville. Il rentre dans une ville et pendant 10 chapitres, on ne connaît pas le nom de cette ville. 10 chapitres, c'est beaucoup 10 chapitres. Donc on a dû trouver tous les donc il rentre dans une ville, hein, il reste longtemps, et en fait et le plus dramatique dans cette histoire, c'est que t'apprends le nom de la ville au chapitre 20 du tome, c'est-à-dire soit l'autre moitié du bouquin à la fin de l'autre moitié du bouquin. Et donc du coup, ce genre de choses bien pour montrer que ça évolue, et ensuite du coup, on a pu le réinsérer un peu pour trouver des synonymes.
Ce que tu définis là, est-ce que ça correspondrait pas du coup à la ville où ils sont dans le tome 3 ?
Exactement.
Début du tome 3, exactement, fin du tome 2. Ok, ouais. D'accord.
J'en dis pas plus, mais voilà, pour donner des petites anecdotes, ce sont le genre de choses, ça montre bien que c'est un univers qui évolue parce qu'ils rajoutent des familles, et en même temps, c'est très simple, c'est-à-dire qu'on reste dans l'esprit de Fate, c'est-à-dire qu'on reste dans l'esprit du personnage principal, et on apprend plus sur l'univers en même temps que lui. Et c'est là où Grid a un rôle de maître important, parce que c'est lui qui va dire « Hey, regarde, c'est ça, et c'est ça !» Et c'est ça. Et ces personnages-là, en fait, sont là un peu pour aussi aiguiller le lecteur vers, dans l'univers. Exactement. Et du coup, on se sent jamais un peu dans un univers un peu trop gros, tu vois. Il y a des univers parfois où c'est trop gros pour ce que c'est, tu vois.
Mais tu vois, c'est intéressant l'avis que tu nous... Enfin, les anecdotes sur Grid et sur comment toi tu l'as perçu. Parce que moi, par exemple, Grid, je l'avais pas du tout perçu comme ça. Je l'avais imaginé beaucoup plus plus sérieux et voire même tendance à être à être un méchant, c'est-à-dire que je me dis cette épée là elle va lui
va lui faire un coup à l'envers à un moment donné,
il y a clair. Un truc qui va pas quoi. En tout cas c'est la vie que j'ai là aujourd'hui en lisant quoi.
J'ai pas cet avis là, je pense que justement c'est un peu j'ai pas tout lu, j'avoue. J'ai lu les trois premiers tomes du light novel, donc jusqu'au 6. Je me spoil pas forcément, parce que déjà je les travaille 10 fois après, je les relis 10 fois après, donc forcément. Mais à mon sens, c'est un personnage qui a beaucoup plus, a un peu un rôle, genre vraiment maître-élève, père-fils presque, dans cette option. Sauf que c'est un père un peu taquin qui dit vas-y, balance-toi, on va le balancer au lion, ça va l'apprendre un peu. Il va se prendre 2-3 torgnoles, c'est bon. C'est un peu le genre, à la dure, genre le père à la dure, Sangoku avec son fils, genre vas-y, balance, va attaquer les Saibaman. Ouais, tu vas te faire démonter la tronche, mais c'est pas grave, ça t'apprendra la vie. C'est un peu ça.
Ah, mais ce que j'aime bien aussi, c'est que ça alterne pas mal entre le... Alors, c'est encore une fois, pour moi, je vais le répéter 50 fois, mais c'est la ref au jeu vidéo, elle est assez évidente. Parce qu'aujourd'hui, dans un jeu vidéo, quand vous allez d'un point A à un point B, vous pouvez faire la quête principale, qui est d'aller sauver la princesse, secourir. Mais entre-temps, tu peux tomber sur de la quête annexe, sur de la quête secondaire, sur des trucs qui te permettent d'en apprendre un peu plus, sur le lore, sur les personnages. Et ça que j'aime bien aussi, parce qu'il y a aussi une grosse facette un peu tranche de vie, où on les voit faire...
C'est très assumé d'ailleurs, la partie tranche de vie.
Il le dit d'ailleurs l'auteur en commentaire à la fin, qu'il a essayé d'alterner entre vraiment le côté heroic fantasy et le côté tranche de vie. Mais j'aime bien parce qu'en fait c'est vraiment quelque chose que tu peux aussi avoir dans les... Dans des RPG ou dans les MMORPG, c'est-à-dire que t'as la quête qui va venir où tu vas devoir aller trouver telle personne pour rabibocher deux personnes. Ça n'a aucun lien avec l'histoire, on s'en fout, c'est juste là pour en découvrir un peu plus sur le caractère du personnage. Je pense notamment au petit garçon qui a perdu ses parents. Tu dis, mais qu'est-ce que ça vient faire là? Mais non, mais c'est juste pour en apprendre un peu plus sur le côté gentil de Fate, sur sa personnalité. Et c'est intéressant, ça donne un peu de... ça rafraîchit un peu, puis ça donne un peu de légèreté au récit. Quoi.
C'est marrant que tu parles de
cette partie-là, parce que justement, cette histoire avec le petit garçon de Fate, elle est vachement allégée par rapport au light novel. Dans le light novel, il y a une grosse partie... en fait, Berserk of Lutonis, c'est pas que de l'action tout le temps, faut se dire ça. Il y en a beaucoup, évidemment, mais il y a aussi beaucoup de phases où tu vas apprendre plus sur la personnalité de Fate, et ça va approfondir ses relations avec Roxy. Dans le light novel, t'as toute une partie où Roxy et Fate vont dans un bar, etc., passent du bon moment, etc., vont faire un peu de shopping ensemble, où Roxy va découvrir la vie de Fate parmi le peuple, où Fate va essayer de comprendre un peu cette Roxy qui... en fait, c'est une princesse qui a vécu comme une princesse, mais qui sous le poids aussi de cette princesse, on va dire, c'est-à-dire qu'elle essaye d'assumer
la responsabilité
de tout ça, et en même temps, c'est une femme qui a envie de liberté, qui a envie d'être comme toutes les autres aussi, et Fate va apprendre un peu ce côté-là d'elle. Et va essayer de... Et ça va le toucher, quoi, tout simplement. Enfin, ça va peut-être l'enlever, son côté. Ouais. Il y a un petit côté un peu... Mademoiselle Roxy, un peu... Peut-être que ça... J'espère que ça va se calmer un peu, ce... Ah, c'est juste, parfois, moi, ça me tue dans le light novel. Dans le light novel, il dit beaucoup... Mademoiselle Roxy, C'est un peu Monsieur Frodon, tu vois, le syndrome Monsieur Frodon.
Il a un peu le syndrome
Sam Gamgee de ah Monsieur Frodon, ah Mademoiselle Roxy, et
il le fait un peu,
dans le manga ça va, mais dans le light novel il le fait même dans les pensées, et donc du coup on a eu beaucoup de travail dessus pour enlever un peu ce côté là parce que sinon t'avais des Mademoiselle Roxy tous les trois mots, hein, et tu te remplaces par des synonymes genre la jeune femme, la commandante, le saint chevalier. Tu trouves des synonymes, etc.
Un truc un peu, ce côté un peu redondant.
Voilà, et sinon tu dis même la fille des Hart, tu vois, parce qu'elle s'appelle Roxy Hart. Tu essayes de trouver un peu des synonymes, un peu, parce que sinon tu te retrouves avec Mademoiselle Roxy, ah Mademoiselle Roxy, s'il vous plaît, Mademoiselle Roxy, ah Mademoiselle Roxy. Ce côté de ce personnage-là, ça peut être un peu. Bon, ça, c'est vraiment atténué dans le manga, on le voit vraiment pas. Dans le light novel, on le voit pas trop. En fait, moi je le vois en tant qu'éditeur, en fait. Moi, je l'ai vu en tant qu'éditeur parce que moi, j'ai vu les versions précédentes, on va dire. Donc, moi, j'ai vu les trucs, j'ai fait « Oh là là !» Mais le lecteur ne le verra pas.
C'est un écueil du manga aussi, de manière générale. Mais manga, c'est un lecteur du monde japonais qui est toujours en train de donner le nom, la fonction du personnage. Donc là, c'est Mademoiselle Roxy.
C'est Roxy-sama, quoi.
Mais je me doute bien que c'est Roxy-sama toutes les 5 minutes, quoi. Et voilà. Mais bon, ça va avec.
C'est ça.
Ça fait partie un petit peu des écueils. On va toucher quand même deux mots avant de conclure. Le dessin, pour le coup, est-ce que c'était donc, je pense que le scénariste a choisi son dessinateur, ou est-ce que c'est le dessinateur qui a proposé? Comment ça s'est passé? Parce que je trouve que c'est, pour un premier manga, c'est un dessin, j'ai envie de dire, très académique et vraiment hyper quali, en fait. Enfin, franchement, c'est hyper facile de se plonger dans la lecture, parce que le dessin n'est pas du tout rebutant, il est même plutôt très agréable.
Ah bah, certains diraient même, il remplit tous les codes, mais il est classique, tu vois, il est classique, il est académique.
Parce que...
Vraiment, le mot académique est pas mal.
Vas-y Val, dis-le, parce que c'est quelque chose qu'on a parlé en off et je veux te laisser le dire, et puis le fait que tu confirmes ce que dit Val, c'est rassurant. Vas-y Val.
En off, on s'était dit, moi j'ai dit à Seb que c'était propre. C'est-à-dire que vraiment, il y a rien qui...
Tu décoches toutes les cases.
Ouais,
c'est ça.
C'est vrai que j'ai dit ça aussi. Il n'y a rien qui ne va pas. Tout correspond au code du manga tu vois, pas tant que ça en fait. J'avais peur de ça au début, mais en fait pas tant, parce que je trouve que ça se met très bien au niveau, ça colle bien à l'œuvre,
tout à fait.
Et du coup, à partir du moment où la synergie elle est bonne, si t'es propre,
je suis d'accord. Voilà, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Moi, je trouve que une des reproches qu'on pourrait faire au dessin parce que il y en a tellement peu à faire en réalité, puisque c'est propre, c'est on voit bien les personnages, ils sont bien dessinés, les dessins sont lisibles et les décors sont suffisants. Etc. Si on pouvait faire un reproche, c'est que peut-être que ça manque de patte, de signature, oui, tu vois, une patte signature. Exactement. Mais ça viendra. Mais voilà. Si la seule remarque que je dis, c'est bien, c'est beau, c'est tout ce qu'on veut. Mais c'est ça. On va pas dire waouh, Tatsuki Takino, meilleur illustrateur de la Terre. Tu vois, on ne serait pas allé jusque là. Tu vois.
Oui, il faut être honnête. Ouais. Non, bien sûr. Ah ouais.
Il a pas sa patte, il a pas son originalité ou son truc artistique, mais par contre, il maîtrise le médium, quoi.
La balle est belle, mais elle est commerciale. Pour résumer.
Ouais. Mais tu vois, je pense que c'est un très bon signe pour l'anime, parce que en fait,
il a mis tous les codes pour l'anime, ouais, complètement.
Ah mais ouais, ce chara-design là, mais à animer, ils vont se régaler. ça doit déjà être le cas, mais ils vont se régaler à le faire et ça va très bien rendre. Mm. Quoi. Là où une originalité dans le dessin va être peut-être plus galère à être adaptée en anime.
Là où je trouve par contre où il s'est un peu surpassé, où j'aime beaucoup, c'est les couvertures. Je trouve que les couvertures avec ce fond de couleur, cet aplat de couleur en arrière-plan,
la colorimétrie elle est super, très
sympa. Ouais. Là j'arrive sur le tome 4, on est sur le tome 4 avec une colorimétrie vert pomme. Voilà, vraiment on se retrouve sur du violet, du rose, du jaune, du vert, du bleu, enfin tu vois, à chaque fois ça change de colorimétrie et du coup les couvertures elles pètent de ouf. Et à chaque fois, je suis en mode, mais waouh, ces couvertures, elles m'attirent l'œil direct.
Ouais.
Et je trouve que la couverture est une très belle réussite. Et c'est peut-être. C'est ce qu'on attend d'une couverture. Donc.
C'est le boulot. Hein. C'est
ça fait 30% du boulot.
Ah non, plus. Plus. Ah non, c'est 90%. Ah ouais, donc, c'est 90% d'une vente, c'est la couverture.
Ça m'étonne même pas.
30%, ça serait gentil, hein, ça serait bien. Non, 90% d'une vente.
Non, je pensais que c'était dans le pouvoir de décision d'achat, moi. Dans le décision d'achat. Je crois que ça pesait 30%. Alors, pour aller le prendre et le regarder, oui, je pense que c'est un élément ultra déterminant, mais je pensais que dans le critère d'achat, il me semblait que ça pesait 30%.
Il y a des études qui ont prouvé que c'était 90%. Voilà.
Ok.
Je ne suis pas étonné.
Chez les Anglais, surtout, ça a été fait. Il y a eu une étude de 2000.
Ils ont des superbes couvertures, les Anglais, hein, on va se le dire. Hein. Pour les romans, moi, des fois, c'est juste voir leur couverture. Je me dis, purée, waouh, ça doit être top.
C'est clair.
Moi, j'ai un petit truc à rajouter pour les refs et tout. Je vais plus te poser la question à toi, Aurélien, parce que Seb, je ne sais pas s'il aura la ref. Mais moi, il y a certains persos qui m'ont fait penser à des personnages de Pokémon dans la manière dont ils sont dessinés. Je pense notamment dans le tome 3, à un moment donné, il y a quand il revient dans sa ville, là, justement, et son ancien persécuteur de quand il était petit, le mec qui se foutait de sa gueule et tout ça, qui a les cheveux un peu courts, je trouve qu'il a une gueule de personnage de Pokémon, genre...
Régis
l'anime. Non, pas de Régis, mais un personnage de Pokémon, quoi. Dans la manière dont les yeux sont dessinés, la forme du visage, la coupe de cheveux...
Là, tu me colles, pour une raison très simple, c'est que... Ouais, c'est un chara-design de manga, quoi.
Ouais.
J'ai envie de te dire, les chara-design se ressemblent. Tu m'aurais dit, certains personnages, type dans le tome 3, le péché de la colère, je vais pas trop dire les noms, genre le péché de la colère qui ressemble à certains personnages, type Fate Grand Order, type. Ou Aaron pardon, ou le maître de Fate plus tard dans le tome 4 qui 3-4 qui va j'essaye de pas spoiler, qui ressemble à un personnage de Re:Zero, au majordome de Re:Zero. Oui, là clairement tu me dis oui. Moi je vois des similitudes, je vois des en tout cas c'est un majordome, enfin il a la tenue d'un major, en fait c'est le stéréotype du majordome, donc
c'est le stéréotype
du majordome, ouais, donc tu vois il y a des stéréotypes qui reviennent, etc. Et encore je trouve que c'est plutôt bien amené, c'est plutôt, en fait les chara-design des personnages sont efficaces, c'est-à-dire qu'on comprend tout de suite le personnage, on comprend tout de suite tout, et en fait c'est fun à lire, c'est fun à... Je sais pas si je défends très bien le livre en disant que les chara-designers sont proches de ce qu'on a l'habitude de voir, mais en tout cas c'est quelque chose qui est assez fun à lire, les personnages sont attachants, les dessins sont beaux, Et ils ont tous leur personnalité, ils ont tous leur truc. Enfin, ils se... ça marche, ça marche.
Complètement, voilà. Complètement. Il y a, ça marche
c'est vraiment, c'est avec les vues, c'est vraiment c'est des choses éculées. On a l'habitude de les voir. On a vu déjà tous ces archétypes de personnages. On les a déjà vus, mais ça marche de ouf. En fait, c'est juste ça. En fait, c'est ouais. On les a déjà vus. C'est pas ouais. nouveau. On va pas se dire, putain, Berserk of Utonis, ça a révolutionné le genre. Non, c'est dans le genre. C'est pas l'objectif. C'est dans le genre, mais c'est le haut du panier du genre. Voilà.
Mais c'est vrai que de toute façon, ce qui est intéressant, c'est que en tout cas, vous commercialisez aussi bien le manga que la light novel, et que dans le tome 1, on l'a dit tout à l'heure, mais il y a un extrait donc du light novel. Excusez-moi, je me reprends. Je vais me faire taper sur les doigts. Mais en tout cas, voilà, toi, à ton niveau, tu recommandes vraiment les deux, parce que ça peut être à la fois des lectures complémentaires, ou alors vraiment ceux qui sont plus romans peuvent aller se diriger vers le light novel, en tout cas.
Moi, je recommande les deux. Petite préférence pour recommander, évidemment, le light novel, parce que c'est le format original. De ce fait, je le trouve un peu plus complet à ce niveau-là. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas lire des romans. Moi, je serais tenté de dire essayez les deux, essayez le manga si vous préférez, si vous avez aimé, essayez le light novel ou vice-versa. Le light novel a cette force vraiment de pouvoir... En plus, celui-là est très facile à lire. En porte d'entrée, dans le monde du light novel, Berserk of Utonis, c'est parfait. Parce que c'est simple, on se prend pas la tête. C'est vraiment l'exemple typique du light novel où tu lis pour le plaisir et il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il y a un peu plus de détails. Les illustrations sont... plus joli, parce que pour le coup, on parlait du dessin de Daisuke Takino, okay. C'est quelque chose, c'est classique. En revanche, le dessin de Fame, pour le coup, n'est pas classique du tout. Il a une vraie patte, et c'est vraiment très sympa. Il y a un jeu des noirs et blancs qui est vraiment fort sur Fame, avec des jeux, c'est assez joli. Je recommande fortement ce light novel pour le coup. Parce que ça change, c'est souvent ça avec les light novels, c'est-à-dire que t'auras pas beaucoup d'illustrations, mais t'auras des très belles illustrations.
Voilà. Ok, c'est bon à savoir. Donc,
voilà. T'en auras une dizaine, mais voilà.
Eh bien écoute, super, on arrive à la fin de cette émission. Déjà, Aurélien, merci beaucoup d'avoir participé avec nous, c'était une émission vraiment super intéressante, parce que on a vu un peu l'autre facette du monde du manga, et c'est toujours intéressant, puis t'as apporté plein de petites infos et
merci
c'est cool.
À vous.
On vous recommande bien évidemment pardon, je perds ma voix en fin d'émission. On vous recommande bien évidemment d'aller découvrir Berserk of Utonis chez les éditions Mao. De toute façon, on mettra tous les liens que ce soit du site internet, vous avez aussi les premiers chapitres en description sur votre site internet. Donc on mettra tout ça dans la description de l'épisode. Et puis en ce qui nous concerne, vous savez, vous nous retrouvez présent partout sur différents réseaux sociaux, sur Discord si vous voulez commenter. N'hésitez pas à nous lâcher un petit commentaire sur Spotify. On se dit à très bientôt pour un prochain épisode de Y a-t-il un pio dans le manga. Merci Aurélien.
Merci Aurélien. Val.
Et puis à plus tard. Ciao. Ciao tout le monde.
Merci à vous.
Salut.
Et de nouveau Seb, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu et qu'on vous aura donné envie de découvrir les éditions Mao et plus particulièrement le titre qu'on aura traité dans l'épisode qui est Berserk of Gluttony. En tout cas, pour faciliter la découverte, je vous avais annoncé une petite surprise. On a mis en place un petit concours avec la collaboration donc des éditions Mao qui nous ont fourni 3 fois le premier tome de Berserk of Gluttony qu'on va vous faire gagner sur les réseaux sociaux. Donc le concours va être mis en place à la fois sur Twitter et Instagram. Vous pouvez participer sur nos 2 réseaux sociaux. Ça augmentera vos chances de gagner le premier tome de Berserk of Gluttony. Vous pourrez trouver tous les détails disponibles sur les posts Twitter et Instagram. Voilà, n'hésitez pas à participer. Et puis je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga ? Allez, ciao tout le monde !